On va comprendre comment, entre quatrième cours, sur le chapitre 15, la lettre 15 de Yigaret HaKodesh, une lettre très importante qui parle justement sur les Sfirot, et donc ça nous concerne aujourd'hui, puisqu'on compte le Homer, et donc depuis samedi soir, on vient de rentrer dans une nouvelle Sfira, on vient de rentrer dans la Sfira de Hod, Hod qui représente l'humilité, d'accord ? La Sfira de la semaine dernière, c'était Netzach, la victoire. Et à partir de samedi soir, vous voyez qu'il y avait toujours un rapport avec les élections. À partir de samedi soir, et ben on est rentré dans la nouvelle Sfira qui s'appelle la Sfira de l'humilité. Alors, c'est ce qu'on va essayer de développer aujourd'hui. On va essayer de développer, je vais d'abord un topo rapide de ce qu'on a fait dans les trois derniers cours. On a expliqué tout d'abord que la question qu'on se pose, une question basique, pourquoi c'est tellement important de parler des Sfirot ? Finalement, qu'est-ce que ça nous change ? Qu'est-ce qui se passe en haut ? Dieu il est au courant, les Malachim sont au courant, et nous, ça ne nous change pas grand-chose dans notre vie. Alors, on a expliqué longuement le premier cours qu'il y a une structure commune. Je ne vais pas revenir dessus, ça nous a pris un cours entier. Rapidement, on a expliqué qu'il y a une structure commune entre notre corps, entre les Sfirot, entre les Malachim, entre Akadosh Baruch Hu, la manière comment il a créé le monde. Et que finalement, le jour où on va comprendre comment Akadosh Baruch Hu a créé le monde, on pourra comprendre comment notre structure est faite. Et le jour où on comprendra vice-versa comment notre structure est faite, on pourra comprendre de la même manière comment Akadosh Baruch Hu, donc comment le monde a été fait, et vice-versa. Donc ça, on a expliqué longuement le premier cours. Ok. Maintenant, une fois qu'on a expliqué ça, on a dit maintenant, on va rentrer dans les détails, et c'est ça qu'on a fait donc les deux dernières semaines. Les deux dernières semaines, on est rentré dans les détails. On a parlé des Asarat, donc on a parlé des 10 Sfirot. Dans les 10 Sfirot, on s'est arrêté sur l'arbre des Sfirot. Voilà, donc je vois ici, ça c'est pas de chez nous, hein.
Non, mais c'est ce que j'ai trouvé de plus clair.
Bon, on va essayer de débrouiller sans. Alors, non, il n'y a pas de problème, c'est que... Bonsoir. Donc, parce qu'on dit qu'il faut toujours se baser seulement sur ce qui est fait dans la douche, ça n'a pas l'air de... Je donnerai des références après, si vous voulez. Donc, la semaine dernière et la semaine d'avant... On a expliqué, on est rentré dans les détails des 10 Sfirot. Alors, on avait donné un exemple intéressant. On avait dit que, si on prend par exemple un morceau de bois, c'est ce qu'on avait étudié il y a 3 semaines. Si on prend un morceau de bois et qu'on le décompose, qu'est-ce qui va se passer ? Vous vous rappelez ce qu'on avait expliqué ?
Le feu.
Les 4 éléments. Comment les 4 éléments vont se décortiquer ? Et comment finalement, en vérité, la force d'un tzaddik, la force d'une personne qui sait voir les choses, c'est que sans même te brûler la chose, il est capable de te voir qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur. Ça, c'est une force extraordinaire. Ça, c'est ce qu'on avait fait il y a 2 semaines, enfin, 2 cours en arrière. Le dernier cours, qui était un cours très intéressant, on avait justement parlé des Sfirot. On avait dit que de manière générale, dans les Sfirot, quand on parle des Sfirot, on a un arbre. Et quand on parle de cet arbre, on a le côté droit, le côté gauche et le centre. D'accord ? Le côté droit, c'est ce qui est plutôt, qui penche vers la bonté, vers l'envie d'aller de l'avant. Le côté gauche, c'est la rigueur, c'est celui au contraire qui a tendance à justement se rétracter et à dire non, on donne pas. Et le milieu, c'est celui qui va justement faire la jonction entre les deux et qui va dire non, on va faire un petit peu des deux. Donc on a expliqué qu'on retrouvait ces 3 aspects dans Abraham, Yitzhak, Yaakov. Donc la bonté, la rigueur, Abraham la bonté, Yitzhak la rigueur, et au milieu, on avait Yaakov qui lui justement était Tiferet, l'harmonie entre les deux. On a expliqué ça longuement, je ne vais pas revenir dessus. Ceux qui veulent, ils peuvent écouter ça sur Internet. C'était des cours, je pense, de base, pas seulement sur la Torah, même de manière générale dans la communication. La semaine dernière, on s'est arrêté sur un autre point. Donc, je reprends, donc regardez-moi. Non. À ma droite, j'ai Chesed, la bonté, qui dit je donne. À ma gauche, j'ai Gvura, la rigueur, qui me dit je donne pas. Et au milieu, j'ai Tiferet, qui me dit au contraire, qui me dit ben, on va faire un peu des deux. On va essayer de donner, d'accord ? Même à ceux qui ne méritent pas. Ok, ça c'est ce que j'ai envie de faire. Maintenant, après, on a expliqué qu'une fois qu'on passe à l'étage d'en dessous, c'est la technique de communication. On est d'accord ? Ça veut dire comme on a eu dans les élections. T'as ce qu'un candidat pense, et t'as la manière qu'on compte le présenter. Ça veut dire que peut-être que t'as des gens qui, en vérité, au fond, c'est des candidats qui représentent la rigueur, mais qui vont te le présenter de manière amoureuse. Et vice-versa. Donc c'est 2 choses qui n'ont rien à voir. On est d'accord ? Donc au premier étage, qu'est-ce qu'on a ? On a Chesed, Gvura, Tiferet, ça c'est on va dire la vraie nature de la personne. Est-ce qu'il est plutôt bon, est-ce qu'il est plutôt rigoureux ou est-ce qu'il est plutôt harmonieux ? D'accord ? Alors, on avait donné l'exemple de l'harmonie avec les couleurs, etc. Mais je ne vais pas revenir dessus. Et après, À l'étage d'en dessous, on a la technique de communication que je vais utiliser. Est-ce que je vais utiliser une technique plutôt netzach? Alors, on avait donné l'exemple d'un commercial. Un commercial qui vient pour, kaviachol, si on peut dire, pour attaquer un client. Voilà, il doit attaquer maintenant un nouveau client. Donc, tu as trois techniques possibles.
Démarcher.
Oui, mais justement, vous allez comprendre aussi pourquoi je dis attaquer. Parce que la première technique, qu'est-ce qu'elle te dit? Elle te dit netzach. Rappelez-vous, le netzach, c'est du côté droit.
Succès.
Le côté droit, ça veut dire on va de l'avant. D'accord? C'est avec nous, Youssef? C'est pour toi que je fais un résumé. Alors,
c'est quoi que tu
veux faire les Khaïms? Non, merci. Hein? Non, parce qu'on va. Donc, on a dit qu'on est au deuxième étage, sans rancune, hein?
Non.
Hein? C'est bon?
Ça va carburer.
Alors, donc on est au deuxième étage. Quand tu es au deuxième étage, tu as d'un côté, donc ça veut dire, je répète, le premier étage, c'est. Quelle est mon approche des choses? Tu as des gens qui sont plutôt bons, des gens qui sont plutôt rigoureux, des gens qui sont plutôt au milieu. Maintenant, deuxième étage, c'est quoi? C'est la technique de communication. Tu as des gens qui, un commercial, on a pris l'exemple d'un commercial, qui lui se dit, pour aller voir le client, je vais l'attaquer. Ça veut dire, je vais le mettre devant ses responsabilités. Donc, il va aller voir le client et il va lui dire, voilà monsieur, avec mon produit, voilà ce que vous avez. Sans mon produit, voilà ce que vous manquez. Tac, il attaque. Ça, c'est une technique qu'on appelle une technique de Netzach. Netzach en hébreu, ça veut dire quoi? Nitzachon, la victoire. D'accord? Alors, ce qui est intéressant, c'est pour ceux qui ont suivi la politique hier soir, vous voyez, on a un exemple concret. C'est qu'on a vu la gauche. Donc, la gauche, c'est le côté gauche. Et on a vu qu'hier, ils ont fêté la victoire. Or, la victoire, c'est le côté droit, justement. C'est celui qui dit, on va de l'avant. Je veux bien montrer avec ça que les deux étages n'ont rien à voir l'un avec l'autre. Un, c'est mon idéologie. Et l'autre, c'est la technique de communication.
Si tu es à gauche dans le premier étage, tu peux être à droite.
Exactement. On a vu, pour ceux qui ont analysé j'ai pas beaucoup analysé, mais du peu que j'ai pu analyser, on a vu de la technique de communication de la gauche, de ce que la gauche en fait. La gauche, normalement, doit être normalement elle, celle justement qui se met en retrait. Normalement, la droite, c'est elle qui se bat. Et la gauche, c'est elle, au contraire, qui dit non, on va s'occuper de ce qu'on a déjà maintenant, on va pas se battre. Et ben, on a vu dans ces élections que la gauche s'est battue pour démontrer que la manière comment la droite faisait les choses n'était pas bonne. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Ça veut dire qu'on voit clairement ici qu'on a eu la gauche qui a utilisé la technique de la droite de communication. Mamache, on l'a vu clairement ça. D'accord. Et d'un autre côté, on a vu la droite, qui elle normalement est censée se battre, et on a vu comment elle, au contraire, montrait comment il fallait se reposer sur ses lauriers, si on peut dire, si on peut appeler ça comme ça, pour garder une France forte. Voilà, bon, on ne va pas faire des cours de communication, mais on a vu Mamache. De tout, le Baal Shem Tov dit, de tout on peut tirer un enseignement. Et là, dans ces dernières élections, on a vu vraiment un enseignement. Ça veut dire que la gauche a joué le rôle de la droite et la droite a joué le rôle de la gauche. On est d'accord? Est-ce que vous me suivez? C'est Mamash, on l'a vu clairement. Hein. Comment il a dit? L'autre, c'est quoi le slogan de la gauche? Il a dit le changement, c'est maintenant. Changement, ça veut dire quoi? Ça veut dire on va aller vers l'avant. Mais pourtant, la gauche, c'est pas ça la gauche. La gauche, au contraire, on a dit la droite, c'est aller vers l'avant. La gauche, c'est au contraire se rétracter. Et là, on a vu que même si leur idéologie était un à droite un et l'autre à gauche, concrètement dans les techniques de communication, bah la droite, ils sont comportés un peu comme la gauche, et la gauche comme la droite. On y reviendra plus tard. Donc, ce que je vais expliquer par ici, c'est quoi? C'est que il y a deux techniques de communication qui n'ont rien à voir avec l'idéologie. Tu peux avoir une personne qui est plutôt recette, mais concrètement, dès qu'il s'agit de techniques de communication, donc je reprends. Première technique de communication, c'est Netzar. Tu attaques. Tu attaques, tu mets la personne devant ses responsabilités. Tu dis, voilà ce que tu vas rater sans moi. Si vous votez pour nous, voilà ce que vous aurez. Vous voulez pas voter pour nous, voilà ce que vous n'aurez pas. Ça, c'est Netzach. Deuxième technique de communication, à gauche, c'est Hod, c'est l'humilité. Quoi l'humilité? Ça veut dire rappeler comment on est petit. Et donc, on va reprendre notre commercial qui a envie de convaincre quelqu'un de... Il a envie de convaincre la personne qui est en face de lui d'acheter son produit. Donc, il va essayer d'être humble face à son client. Et de lui montrer comment il est bien avec lui, comment il communique avec lui, comment il est gentil avec lui. Et après, progressivement, il va essayer de faire glisser son produit. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Les deux techniques de communication. Je t'en ai expliqué la semaine dernière.
Deux techniques différentes?
Complètement, ils n'ont rien à voir. Ah, ça n'a rien à voir. Le premier, il attaque le client.
Deux approches.
Il faut qu'en 30 secondes, shocking. Le deuxième, ça n'a rien à voir. Le deuxième, il dit, on va développer une relation à long terme, une relation d'humilité. Et avec le temps, je lui présenterai mon produit et ça passera beaucoup mieux. Et les deux se valent. Là vient la troisième technique.
C'est la technique Chabad.
Non, les deux techniques, ça n'a rien à voir. Les deux techniques sont valables, d'accord? Et les deux techniques existent, donc une à droite, l'autre à gauche. D'accord ? Et enfin, on a expliqué, on s'est arrêté sur ça la semaine dernière, on a dit qu'on enfin, on a une technique au milieu. C'est quoi la technique du milieu ? La technique du milieu, c'est donc Netzar Hod Yesod. Yesod, c'est quoi ? C'est la communication. On a expliqué, c'est quoi le problème qu'il y avait entre les deux ? Qu'il y avait et dans le Netzar, et dans le Hod. Et dans la victoire, l'envie de gagner, donc le fait que je vais attaquer le shocking, et de l'autre côté, on a dit Hod, l'humilité, c'est que finalement, on s'est jamais mis dans la tête et dans la peau de la personne qu'on a en face de nous. Moi, j'ai réfléchi comment, moi, je vais faire passer mon message de la meilleure manière possible. Donc, un, il a dit, j'attaque. L'autre, il a dit, non, je vais rester plutôt humble. Mais je me suis jamais mis dans la tête de l'autre. Vient la sphira qui est au milieu, qui est la sphira de Yesod, donc la sphira de la semaine prochaine dans le Homer, qui, elle, te dit, ce que tu as fait jusqu'à maintenant, c'est bien beau, mais ça va pas marcher à 100% parce que tu t'es pas mis dans la tête de l'autre. Or, on sait que l'empathie, hein, parce qu'on l'a dit la semaine dernière, c'est la mitzvah la plus forte. Quand tu arrives à rentrer dans la tête de la personne, pas pour le manipuler, mais pour être dans sa tête et pour essayer de réfléchir qu'est-ce qui sera le mieux pour lui, tu gagnes à 100%. D'accord ? À 100%, à 1000%. Donc voilà, on a retrouvé nos trois techniques de communication qui correspondent à nos trois, à nos trois idéologies. D'accord ? La droite, la gauche, le centre. Ok ? Droite, gauche, centre dans l'idéologie. Et ensuite, dans la technique de communication, droite, gauche, centre. Et donc après, chacun, selon l'idéologie qu'il a, il va peut-être utiliser différentes techniques de communication, plus shocking ou plus... Enfin, chacun fera comme il veut. Ok. Maintenant, on va développer quelque chose de nouveau, toujours dans cette suivante. Veiné Midot Elou. Alors, on est à la page Kouf Rav Gimel. Veiné Midot Elou. Voilà, c'est important pour moi de faire un point et on va comprendre un peu mieux dans la suite. C'est bon, vous avez Veiné. Voilà, Veiné Midot Elou, ici. C'est bon ? Youssef, est-ce que c'est clair ?
Ouais.
C'est bon ? D'accord. J'essaie de refaire un petit point. En plus, c'est intéressant comme le... Parce que je sais que quand j'ai préparé ce cours, quand j'ai préparé cette lettre, j'essaie de comprendre la profondeur de ce que l'Admor HaZaken disait, que comment ça veut dire, la manière, comment le côté que je suis dans l'idéologie n'a rien à voir avec la technique de communication. Que tu peux avoir une personne qui, idéologiquement, il veut défendre des idéaux de chesed, de bonté, et que sa technique de communication sera dans la rigueur, sera dans le côté de l'humilité. Et j'essaie de comprendre qu'est-ce qu'il voulait dire. Et Baruch Hashem, Kadosh Baruch Hu nous a montré avec ses élections, ça nous a permis de, enfin moi en tout cas, ça m'a permis de comprendre comment les idéologies et les techniques de communication, ça n'a rien à voir. Ça, mamash, on l'a vu, en tout cas, moi je l'ai vu, ça m'a sauté aux yeux. C'est peut-être une des raisons pour lesquelles ça n'a pas marché pour l'autre. Bon, alors...
Mais Yesod, c'est une troisième technique ou c'est un mélange de...
C'est un mélange des deux. C'est un mélange de...
Non, c'est un mélange de Hod et de Netzar. Ou c'est une troisième ça, technique.
C'est
une technique en soi, Yesod ou...
Yesod, c'est un mélange de... C'est un mélange des deux. Parce que d'un côté, t'as un côté Netzar. Parce que on va aller de l'avant. Donc je vais aller communiquer, je vais aller de l'avant. Et d'un autre côté... Il y a une dose d'humilité parce que je me dis, je suis pas simplement là pour dire ce que j'ai à dire, j'ai envie de m'assurer que l'autre a compris ce que j'ai à dire. Il faut que je me mette dans la tête de l'autre. Donc, t'as un petit peu, je vais un peu de l'avant, mais d'un autre côté, j'ai un peu d'humilité. Donc, c'est le mélange des deux. Et ça, c'est le top en vérité.
D'accord ?
L'harmonie. C'est pas l'harmonie, la communication. Et ça, c'est la communication.
L'harmonie dans la communication.
C'est extraordinaire, c'est très difficile à faire ça. Très difficile. Alors, Veiné, Midot Elou. Hine, midot elu, en prinat ritzoni ou tchemen nefesh. Explique que ces midot-là, les midot qu'on a expliquées, dans toutes ces midot-là, on peut retrouver un aspect extérieur et un aspect intérieur. Un aspect superficiel et un aspect profond. C'est ce qu'il va expliquer tout de suite. Ou betochan, melou bashot, midot pnimiot elu, shen prinat ava veira. Maintenant, on va compliquer un petit peu les choses. Jusqu'à présent, on a simplifié les choses, on a dit, voilà, t'as des grandes lignes, t'as côté droit, côté gauche, côté milieu, et bon, ça avait l'air simple. Il dit non. Le problème qu'on va avoir maintenant, c'est que quand une personne va faire quelque chose, tu dois analyser ce qu'il fait, et tu dois analyser ce qu'il pense vraiment. Et ça, ça va compliquer les choses. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire ? Encore une fois. Jusqu'à présent, ce qu'on a étudié dans les cours jusqu'à présent, on a expliqué, on a schématisé de manière assez classique, on a dit, il y a le côté droit, le côté gauche, le côté du milieu, et on a fait en deux étages. Dans les idéaux, côté donc la droite, la gauche, le milieu, et dans les techniques de communication, côté droite, j'attaque, côté gauche, dans l'humilité, et côté donc le milieu, c'est quoi ? C'est, on a dit, justement, dans la communication, ça veut dire l'empathie. Ce que va expliquer Edmond Razakel maintenant, c'est ça ce qui va compliquer les choses, et c'est ça ce qui va faire en vérité que c'est très compliqué de communiquer avec les hommes, c'est que on va devoir faire la différence entre le sentiment qui est perçu par les hommes et ce que la personne pense réellement. Et ça, c'est très compliqué. Ça veut dire que tu peux avoir une personne qui te fait croire, qui te donne le sentiment qui est gentil, mais en vérité, c'est de la méchanceté. En vérité, au fond, c'est de la méchanceté. D'un autre côté, tu peux avoir une personne qui te fait croire qui est méchant avec toi, mais en vérité, c'est pour ton bien. Donc le classique, l'exemple classique qu'on en a en Chassidoute, c'est quoi ? Bah, c'est par exemple un papa qui voit son fils en train de jouer avec un couteau et qui enlève le couteau. Donc l'enfant, qu'est-ce qu'il va percevoir ? Quel sentiment va percevoir l'enfant ? Il va percevoir la méchanceté. Pour lui, il est persuadé que son père est méchant. Mais en vérité, le père est gentil. Alors c'est possible que le père, il voit que son fils ne veut pas lui donner, d'accord ? Ne veut pas lui donner le couteau, donc l'enfant va pleurer, et il est persuadé que son père lui veut du mal. Donc là, quand on analyse une scène comme ça, on va avoir le côté pnimi et le côté chitsoni. Le côté pnimi, c'est le côté profond, et le côté chitsoni, c'est le côté extérieur. Extérieurement, superficiellement parlant, le père va peut-être frapper la main de l'enfant pour qu'il lui donne le couteau, parce que c'est dangereux. Donc, superficiellement parlant, on a ici un sentiment de gvoura, de rigueur. D'accord ? Mais, intérieurement, c'est-à-dire profondément parlant, c'est un chesed le plus profond possible. Et c'est ça ce qu'il a expliqué ici, l'Admon Razakhen, que finalement, c'est ça ce qui fait la complexité des choses. C'est pour ça que c'est extrêmement difficile de communiquer avec les gens et de comprendre ce qui se passe. Parce que si on n'avait pas ce paramètre de extérieur et intérieur, superficiel et profond, ça aurait été très facile. J'aurais dit, ben voilà, je vois tout de suite, je catégorise, lui il est droite, gauche, milieu, je me catégorise tout de suite, je sais tout de suite avec qui j'ai affaire. Le problème, c'est que ce que les gens vont te montrer, c'est pas forcément ce qu'ils pensent. Et ça complique les choses. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire ? D'accord ? David, tu me surviens un peu ?
Oui.
Allez, vas-y, va nous amener un peu. Qu'est-ce qui se passe ? On est fatigué ce soir ?
Non, écoute, c'est passionnant.
À quelle heure vous êtes dormi hier soir ?
Oh là,
3 heures.
Il va 2h15 chez lui.
Hollande. T'as suivi, t'as suivi toute la...
Ouais. Moi j'ai attendu que...
Mais il était pas, il était pas à Paris, c'est ça ?
Il t'a tué.
Oui, mais...
Il a pris un avion privé, mais personne n'a rien dit.
C'était un Falcon.
C'est pas grave.
Ça fait bling bling.
Ça fait bling bling, hein, quand même, non ? C'est pire que le Phuket, ça a dû coûter plus cher, non ?
Apparemment, ils ont...
Ah, il avait, Sarkozy avait un aspect bling bling qui était pas bon.
Non, l'avion qu'il a pris, c'est un avion du gouvernement.
Bah, encore pire, justement, c'est le problème.
Je vais te dire une chose, moi, que j'ai ressenti, c'est que quand il y avait les élections en 2007, je me rappelle, c'est le jour de l'Agba Omer, ce que j'avais ressenti que Sarkozy voulait être trop au niveau du peuple. En tout cas, moi, j'avais pas le sentiment qu'il était au-dessus du peuple. Selon la Torah, un meler, un roi.
Mais Hollande, c'est
encore
pire.
Pas du tout.
Bah si, attends.
Non, Hollande, il était vers le peuple. Mais en tout cas, moi, en tout cas, de ce que j'ai entendu hier rapidement, on avait un sentiment qu'il était au-dessus de tout ça. C'est ce que le sentiment que j'ai eu.
Au contraire, moi, je pense. Moi, j'ai trouvé.
Bon, que c'était... Ouais, chacun en a chacun.
Hollande, justement, il a inventé une présidence normale. Normal, c'est normal comme tout le monde.
Oui, normal.
Sarkozy,
c'est normal.
Il a reproché d'être au-dessus.
Bon, enfin, c'est le sentiment que j'ai eu.
Non, il ne lui a pas reproché d'être au-dessus. Il lui a dit, en substance, un poste de président n'est pas un poste...
Encore une fois, tu as ce qu'il a dit et tu as ce qu'il est.
C'est ça. Et avec ça, tu vois comment il a baissé énormément la
pression
d'un président. Avant, un président, c'était presque inaccessible. Il y avait une certaine tenue, une certaine...
C'est comme quoi le Baal Shem Tov dit justement, le Baal Shem Tov dit que de tout...
Que là, il a cassé les codes.
Le Baal Shem Tov dit que de tout, on doit tirer un enseignement. Justement, tu vois. Qu'est-ce qu'on est en train d'expliquer ? On est en train d'expliquer ici que le message qu'on te dit, c'est pas forcément celui que le message qu'on pense réellement. C'est clair, ça. Ça veut dire que lui, il te dit, je suis l'homme normal, d'accord ? Mais en vérité, quand tu le vois... Il te donne tout de suite le sentiment d'être... je sais pas comment on dit ça en yiddish, ils appellent ça Besserich.
Mais on peut discuter avec d'accord ce genre de gens
ou... Besserich.
Besserich, ça veut dire...
Comment tu écris Besserich ?
Besserich, ça veut dire meilleur. Je suis meilleur que tout le monde. Je suis différent. Chaim, Chaim.
Comment tu écris ça, tu sais ?
Je sais pas si ça se traduit.
Mais cette personne-là, on pourra jamais rien lui vendre.
Quoi ?
On pourra jamais rien lui vendre.
À qui ?
Cette personne.
Non, justement. Ça veut dire... C'est les techniques de communication après.
Tu pourras lui vendre en allant dans son sens, en faisant croire qu'il aimait.
Bon.
C'est facile.
Alors, ce que je veux développer ici, c'est ça. Tu cherches la traduction ?
Ouais, mais là, ça va prendre
du temps.
Alors,
il y a un truc qui est extraordinaire, c'est
ouais.
Sur Google Traduction.
Il l'a trouvé ?
Besserich.
Ah, attends, je vais te le mettre. Vas-y. T'as mis l'hébreu ? Ah, t'as pas l'hébreu ?
Bah, si,
ah,
si, c'est bon.
Je viens de faire un traducteur japonais.
Traduit le traduit.
Oui, mais je crois pas qu'il a. Non, il a pas.
Content de te voir.
Il l'a juste transcrit.
Alors, peut-être que tu peux l'écrire en hébreu. Mais c'est étonnant parce que.
Pendant le cours, là.
Non. Bon, j'ai pas le. Avec le meilleur grand et tout. D'ici, ah, pour le montrer à quelqu'un. C'est long. Ok. Voilà, donc ça c'est ce qui fait le Chaim le Chaim. Allez, monsieur le Chaim le Chaim, on se réveille. C'est ça ce qui fait finalement la complexité des Midot. La complexité des Midot, c'est que un sentiment que tu vas percevoir n'est pas forcément un vrai sentiment. Et c'est ce qu'on va expliquer justement, que peut-être que jusqu'à présent, on a expliqué qu'il y avait uniquement 7 Sphirot, jusqu'à présent on n'en a parlé que de 6, mais en vérité ce qu'on va expliquer maintenant, c'est que dans chacune de ces 7 Sphirot, chacune est composée, elle aussi, de cette sphirote. C'est ça la complexité. Par exemple, je prends la sphira de Chesed, la bonté, elle est composée de cette sphirote. Donc tu peux avoir une des composantes qui est la rigueur de la bonté. Le papa qui va frapper l'enfant pour lui prendre le couteau. Et c'est ça ce qui fait la complexité, qui fait qu'on a du mal à comprendre. C'est ça qui fait toutes les histoires qu'on peut avoir. Je dis, mais attends, je lui ai rendu service et il est là, il croit que je l'ai embêté. Parce que justement, parce qu'il y a la différence entre ce qui est perçu par les autres, et le sentiment profond, le pnimi et le chitsoni, le superficiel et ce qui était en profondeur. Alors il explique. Da'inu, ça veut dire al derech mashal, par exemple. Be'av amashpi alivno mechamat alavato. On va prendre l'exemple. C'est pas grave. Alors on va prendre l'exemple d'un papa qui est en train d'enseigner à son fils mechamat alavato parce qu'il aime son fils. Umonea ashpaato mi pachado ve'irato shelo yavo lide mirshol. Il a un exemple ici. Il a un exemple. C'est quoi l'exemple qu'on a ici? Non, c'est...
Pas tout tu vois, c'est en deux mots.
C'est meilleur, en fait. Voilà, le terme, c'est meilleur.
Ouais, mais il y a un terme. J'ai pas le terme en français. C'est une personne que, dès que tu parles avec lui, il te donne le sentiment que je suis snob. Voilà, snob, on va dire ça, snob. C'est un grand snob, Hollande.
Prétentieux.
Ah, grave. Snob, un vrai snob, pour moi. C'est... Hein?
Pédant. C'est pédant, normalement.
C'est un snob à 100%.
Hein. Qui pédant.
Hollande à 1000%.
Pendant le débat, oui.
Quoi?
Pendant le débat, oui.
Mais pourtant, il te dit, je suis un homme du peuple, un homme normal. Mais c'est encore une fois, ça n'a rien à voir.
Mais pendant le débat, il pouvait être agressif.
Il aurait fait ce qu'il aurait voulu, il aurait gagné de toute façon.
Bon, peut-être, je ne sais pas, on verra bien.
Ils auraient mis...
On a 5 ans pour voir.
Ils auraient mis David Assuède en face, ils auraient
tout gagné. Ce qui était étonnant, c'est qu'en face, Sarkozy, il n'a pas su riposter vraiment.
C'est juste étonnant. Mais c'est juste pour ou contre Sarkozy l'élection. C'est juste pour ou contre Sarkozy. Ils auraient mis n'importe qui en face, ça aurait fait la même chose.
Peut-être, bon. En tout cas, voilà, ce que j'ai expliqué, on n'est pas là pour faire cours sur les élections, mais ce que je vais expliquer ici, c'est qu'il faut faire la différence entre, ce qu'il y a à l'intérieur et ce qu'il y a à l'extérieur. Et ça n'a rien à voir. Ça veut dire que des fois, extérieurement, on peut donner un sentiment, mais en vérité, intérieurement, c'est un sentiment qui est complètement différent.
Donc ça peut être trompeur.
D'accord ? Donc ça peut être trompeur. Ça peut être trompeur, et c'est ce qui fait la complexité des sphirotes. D'accord ? Donc on va essayer de prendre un classique. Voilà, on va prendre par exemple, c'est dangereux de passer un si lourd. On va prendre le Homer. Quelle page c'est le Homer ? Voilà. Donc je vous donne un classique puisque je vous avais promis de le faire. Donc aujourd'hui, nous sommes toujours le 30e jour du Homer. Donc je lis 30e jour du Homer. C'est quoi la sifira du jour ? Gvura Shebehod. La rigueur dans l'humilité. Est-ce qu'on peut essayer de définir ensemble qu'est-ce que ça veut dire la rigueur dans l'humilité ? L'humilité, on a expliqué ce que c'est. La rigueur aussi. La rigueur, on a expliqué c'est quoi ? C'est le fait de dire je ne donne pas à celui qui ne mérite pas. L'humilité, c'est quoi ? L'humilité, c'est le fait de dire je me sens petit par rapport à l'autre personne. Alors qu'est-ce que ça serait concrètement dans la vie de tous les jours ? La rigueur dans l'humilité. Est-ce qu'on peut trouver un exemple ? C'est quoi la rigueur de l'humilité ? On va travailler ensemble.
Conceptuellement, l'humilité,
écouter ça... l'autre que l'autre, finalement.
Ah non, pas du tout.
Conceptuellement, si t'es
d'accord avec
si
l'autre,
si t'es humble, ben,
il faut toujours voir la composante principale. La composante principale, c'est quoi ?
L'humilité.
Toujours quand on te dit
non, rigueur.
Non, Justement.
Dans l'humilité.
Exactement.
Dans l'humilité.
Donc il faut toujours chercher la composante principale. Chaque semaine, il y a une composante principale.
L'humilité.
Donc la composante principale de cette semaine, c'est l'humilité. Donc l'humilité, ça veut dire le fait que je me sens petit.
Voilà. Oui,
alors des fois,
le fait que t'as raison, c'est bien.
Dans le cadre de l'humilité, qu'est-ce que je vais faire? Dans le cadre de l'humilité, je vais être rigoureux. C'est-à-dire quoi, je vais être rigoureux? C'est-à-dire comme je me sens petit, donc je vais, excusez-moi du terme, me la fermer.
Voilà, donc on va donner raison à l'autre à 100%.
C'est-à-dire quelqu'un, il va parler, et moi, comme je me sens petit, donc du coup, c'est quoi Gvura? Gvura, ça veut dire justement se restreindre. Donc la restriction dans l'humilité, c'est quoi? C'est comme je me sens petit, je me tais.
Oui, mais être un peu dur.
D'accord.
Non. C'est une journée
restriction.
De silence aujourd'hui.
D'accord. Maintenant, je vais vous donner l'exemple de la Sphira de samedi soir. Qu'est-ce qu'on avait samedi soir? Samedi soir, on avait Chesed chez Béod. La bonté dans l'humilité. Donc encore une fois, la composante principale, c'est quoi?
L'humilité.
C'est l'humilité. Donc ça veut dire qu'on est toujours dans l'humilité. Et tu me dis la bonté dans l'humilité. Ça veut dire quoi la bonté dans l'humilité? Là, on part complètement sur notre registre.
Ça va donner discrètement.
Exactement. Ça veut dire que je vais être humble, d'accord? Je vais me sentir petit par rapport à quelqu'un, et comme je me sens petit par rapport à lui, donc je vais lui donner peut-être beaucoup plus que ce que j'aurais dû lui donner. Mais encore une fois, la composante principale, c'était quoi?
L'humilité.
C'était l'humilité.
Je
vais vous donner encore 2-3 exemples. On va prendre la Sphira de vendredi soir. D'accord? Vendredi soir, c'était Malchut. Non, ça, Malchut, on n'a pas encore fait. On va prendre la Sphira de jeudi soir. Jeudi soir, c'était Yesod chez Benetzar. Donc, Yesod, la communication, chez Benetzar, dans l'envie de gagner. Donc, la composante principale, c'est quoi? La composante principale, c'est l'envie de gagner. C'est-à-dire que tu as une personne qui est là, il a envie de... Je ne parle pas de tout casser, mais il a envie de gagner. Oui. Ça, c'est la composante principale. Maintenant, cette personne-là, dans le cadre de son envie de gagner, qu'est-ce qu'il va faire? Il va communiquer. Mais communiquer pourquoi? Pas parce qu'il a envie de se mettre dans la tête de l'autre. Il va communiquer parce qu'il a envie de gagner. Donc, c'est presque la manipulation. Vous me suivez?
C'est ça.
D'accord.
En 2007.
Je vous donne encore un exemple et je m'arrêterai là avec les exemples. Vous verrez qu'en vérité, chaque exemple, on peut tout retrouver. Maintenant, quand on a compris la dynamique, on peut faire ce qu'on veut avec.
Demain, c'est retour.
Je vais prendre l'exemple de mercredi soir. D'accord? Mercredi dernier, c'était quoi? C'était Hod chez Benetzar.
C'était le débat.
C'était l'humilité. Écoutez bien. L'humilité dans la victoire. C'est très fort, ça. C'est quoi l'humilité dans la victoire? La composante principale, c'est quoi? C'est la victoire. J'ai envie de gagner. Mais des fois, pour gagner, je vais me taire. Pourquoi je vais me taire? Je me dis, tiens, je vais le laisser se casser la figure. Ça veut dire que l'autre, il croit que tu t'es tué parce que... D'accord? L'autre, il croit que tu t'es tué. Pourquoi tu t'es tué?
Moi, je dirais que c'est, hein, c'est Sarko, parce que Sarko, quand il y a dit « moi, président, 16 fois », il s'est dit, bon, il va s'arrêter un moment, et il ne lui a pas coupé la parole. Et l'autre s'est dit, puisqu'il ne me coupe pas la parole, alors je continue. Tu vois, c'était, ils ont chacun donné leur analyse de ce moment-là.
Ouais. Moins il parlait, plus il gagnait de voix, déjà. Hollande. Donc,
Mais en 2007, Royal, il a laissé Royal aboyer pendant tout le débat et puis.
On a gagné. Alors, j'étais en train de dire. Donc, vous voyez par exemple, la Sphira de mercredi soir, c'était quoi? C'était Hod chez Benetzar. L'humilité dans la victoire. C'est-à-dire, quelle était la composante principale? La composante principale, c'était la victoire. D'accord? La composante principale, c'est quoi? C'est la victoire. C'est je veux gagner. Seulement, comment je vais gagner? Je vais gagner en me taisant. Mais en vérité, pourquoi je me tais? Pour gagner. Ça veut dire que extérieurement, celui qui va me voir va dire « Ah, t'as vu comment il est humble ?» Mais en vérité, c'est faux. En vérité, si c'est tu, c'est pour me dire « Bon, j'attends qu'il se casse la figure, après je le rentre dedans. »
Donc c'est calculé.
Bien sûr. D'accord. Allez, je vous fais encore un. Mardi soir, c'était chaud. Mardi soir, c'était Netzar chez Benetzar.
Mais demain,
d'accord,
concrètement.
Attends. Mardi soir, c'était... Après, je te fais demain, ok. Mardi soir, mais quand on a compris la dynamique, vous pouvez le faire tout seul après. Mardi soir, c'était quoi? C'était Netzar chez Benetzar. C'était la victoire
dans
la victoire. Là, c'est chaud. C'est-à-dire que là, extérieurement, intérieurement, on va tout casser.
Mardi.
D'accord, mardi.
C'était le 1er mai.
D'accord, c'était le 1er mai. Voilà, c'est clair. Maintenant, on va prendre ce qu'on aura demain. Je ne peux pas vous donner la Sphira, parce qu'on est déjà pratiquement la Shkia, donc je ne vais pas vous donner la Sphira. Mais je peux vous dire quelle sera donc la, je peux pas vous dire le décompte, mais je peux vous dire la Sphira. La Sphira de demain, c'est Netzar chez Behod. La victoire dans l'humilité. Ah, là, c'est plus compliqué, là. Donc, la composante principale, c'est quoi? L'humilité. C'est-à-dire que je me sens petit. Mais des fois, comme je me sens petit par rapport à la personne qui est en face, je vais essayer de lui montrer que je suis petit. Et que des fois, t'as des gens qui vont dire, mais pourquoi tu es petit? Pourquoi tu es petit? Tu n'es pas petit. Tu es grand. Et je vais devoir essayer de combattre pour défendre le fait que je suis petit. voyez ce que je veux dire? La victoire dans l'humilité. C'est-à-dire, je vais essayer de me convaincre à 100% que je suis humble. Donc, encore une fois, la composante ici était quoi? Était l'humilité. Alors, peut-être que extérieurement, celui qui va me voir, il va croire que je suis en train justement de vouloir gagner. Alors qu'en vérité, non, je suis en train de vouloir gagner pour arriver à l'humilité. Etc., etc. Et c'est ça ce qui fait la complexité des sirotes. Vous voyez, j'ai pris un échantillon de 5-6 sirotes. Et on voit tout de suite que c'est très complexe parce que il y a un message qui peut être perçu d'une manière, mais en vérité, le message profond était complètement différent. Ça, c'est le secret des sirotes. D'accord? On va continuer d'aller voir.
Mais ça veut dire que chaque jour, il faut se comporter comme...
Non, ça veut dire que chaque jour, on se travaille sur quelque chose.
On se travaille.
On se travaille. Chaque jour, on se travaille sur quelque chose. Je me pose la question, dans quoi je pourrais me travailler sur ça? Par exemple, aujourd'hui, la question qu'on devait se poser, le 30e jour du Homer, c'était, des fois, on est dans l'humilité, d'accord? Et est-ce que effectivement, dans l'humilité, on sait se travailler sur... Alors, qu'est-ce que vous avez dit? Attendez, je me suis trompé, en plus. Ah non, je me suis trompé, excusez-moi. Demain, c'est pas la victoire dans l'humilité, c'est l'harmonie dans l'humilité. D'accord, bon, c'est encore autre chose. Bon, en tout cas, quoi qu'il en soit, on va s'arrêter ici pour les exemples. On pourrait développer après comme vous voulez. Une fois qu'on a compris la technique, on peut faire ce qu'on veut. Donc, chaque jour, on va se travailler sur une des midotes. Vous avez compris la complexité des midotes. C'est pour ça qu'on en a pas 7, on en a 49. D'accord. Parce que chacune des 7 est composée elle-même de 7. Ok. Alors, on va sauter quelques lignes. Mais... Voilà. Veine. Okay. Alors, on va prendre 5 lignes avant la fin de la page. Veine colze. Il y a un point juste avant le mot veine. On va sauter quelques lignes. Veine. Et voici, il explique la demande à Zaken. Colze urak al derech pachal levat. Tout ce qu'on a expliqué en vérité, c'est une image pour essayer d'expliquer. Parce que rappelez-vous ce qu'on a expliqué le premier cours, c'est une structure commune. C'est-à-dire la manière comment c'est dans notre âme, dans notre comportement, c'est comme ça aussi dans le Neshama, et c'est comme ça aussi dans la manière comment Akadosh Baruch Hu a créé le monde. Ki kolze u ben nefesh asichlit atartona shebe adam haba miklipat nuga. Ach, be emet la amito, be nefesh aeliona aelokit shi chelek elokam imaal, kol amidot pnimiyot vechitsoniyot, em lashem levado. Il se dit, donc maintenant, et maintenant qu'on a compris ça, on pourrait se dire, ok, alors si j'ai bien compris, il y a des comportements à droite, des comportements à gauche, des comportements au milieu. Et tu me dis que cette structure existe également dans la Neshama. Alors, est-ce que ça voudrait dire que dans la Neshama, il y a également un aspect qui veut s'approcher de Dieu, et un aspect qui voudrait, a priori, s'éloigner de Dieu? Rav Morozakhan te dit non. Tu dis, ça c'est l'erreur de ne pas faire. Sur les hommes, chez les hommes, c'est peut-être comme ça. Tu as le côté droit, le côté gauche, celui qui va avancer, celui qui veut reculer, celui qui veut être humble, celui qui veut gagner. Mais sur la Neshama, c'est pas comme ça. La Neshama, toutes les midot, dans tous les cas, c'est on réfléchit comment on va s'approcher d'Akadosh Baruch Hu. Il va expliquer dans les mots. Il va expliquer même longuement. Même. Alors, je prends ma main ici, pardon. La brille. Ki mechamat ahavat Hashem, ou merov chevtso, le dof kabo. Ou chafet chesed ke delit bok bemidotav ke ma'amar razal al pasuk ou l'dov kabo idabek bemidotav. Voilà. Là, il explique quelque chose de très intéressant. Il dit, il y a un pasuk qu'on va lire bien plus tard dans le Chumash Dvarim, par un Shavet Hanan, qui dit, Moshe Rabbeinu, il dit, qu'est-ce que Kadosh Baruch Hu attend de nous? Kadosh Baruch Hu attend de nous qu'on se colle à lui. Qu'on se colle, peu de colle. Alors, la Gemara pose la question, il dit, mais comment on peut se coller à Dieu? Est-ce qu'on peut se coller à Dieu? Et plusieurs réponses. Une des réponses, la Gemara te dit, bon, alors si tu ne veux pas te coller à Dieu, tu vas te coller au Talmid Chachamim, qui ressemble à Kadosh Baruch Hu. Bon. Mais bon, c'est une bonne réponse, mais quand même, c'est pas écrit, c'est pas ce qui est écrit. La Torah t'a dit de te coller à Dieu. Alors c'est quoi la deuxième réponse que la Gemara propose? La Gemara dit non. C'est-à-dire quoi se coller à Dieu? Ça veut dire essayer de ressembler à Dieu au maximum. Elle va expliquer, elle va donner des exemples. D'accord? Ça veut dire quoi? Par exemple, la midat à chesed que j'ai dans ma neshama, l'aspect chesed qu'il y a dans ma neshama, qu'est-ce qu'il a envie de faire? Chesed, c'est l'amour. Donc, la neshama, c'est quoi l'aspect d'amour d'un neshama? C'est la neshama qui va se travailler sur le fait de vouloir aimer à Kadosh Baruch Hu. Ok. On va prendre maintenant l'aspect rigueur qu'il y a dans la neshama. D'après vous, c'est quoi?
La peur de la faute?
Non. La peur de la faute, peut-être. Ça rentre dans l'amour, ouais. C'est quoi la rigueur?
La prière.
Il va dire que c'est très simple. Regardez, il va donner un exemple. Il dit, rappelez-vous, qu'est-ce qu'a dit la Gemara ? La Gemara a dit que c'est quoi ? Ça veut dire quoi ressembler à Dieu ? Ça veut dire quoi, pardon, se coller à Dieu ? Ça veut dire ressembler à Dieu. Donc on va essayer de chercher un comportement que Dieu a. D'accord ? Donc dans la bonté, on sait que quand Dieu il aime quelqu'un, qu'est-ce que Dieu lui fait ? Il lui donne. Donc quand je travaille sur la bonté de ma Neshama, qu'est-ce que je vais dire ? Je vais dire, ben, comme j'aime quelqu'un, comme j'aime Dieu, je vais donner à Dieu. Vous me suivez ? Je reprends. Allez, on va essayer de prendre, même si un peu avant c'est un peu compliqué, on va essayer de comprendre. Je reprends. La Gemara nous dit que ça veut dire quoi, comment la Neshama se travaille sur les midot ? Elle va essayer de chercher un comportement qui ressemble à Kadosh Baruch Hu. Donc on va commencer par Chesed. Chesed, c'est la bonté. Donc la Neshama va se poser la question, elle dit, bon, la bonté. Comment Dieu fait pour la bonté ? Elle va dire, ben, Dieu, la bonté, on sait que quand Dieu nous aime, qu'est-ce que Dieu fait ? Il nous donne. Donc moi aussi, je dois donner. Je dois donner à qui ? Je dois donner à Dieu. Eh bien, maintenant, on va prendre la rigueur. C'est quoi la rigueur ? C'est quoi la rigueur d'Akadosh Baruch Hu ? C'est quoi la rigueur, la gvoura d'Akadosh Baruch Hu ? C'est quand Akadosh Baruch Hu est rigoureux parce qu'il n'est pas content du comportement des hommes. Et qu'est-ce qu'il fait Akadosh Baruch Hu lorsqu'il n'est pas content du comportement des hommes ? Qu'est-ce qu'il fait ? Il donne pas et au contraire, il va même punir. Il va sévir. D'accord ? Alors, ça ne veut pas dire que moi, je vais punir des Réchaïm. Mais ça veut dire que l'aspect gvoura que j'ai en moi, je dis, ok, l'aspect gvoura d'Akadosh Baruch Hu, c'est qu'Akadosh Baruch Hu n'est pas content des Réchaïm, mais il est puni. Moi, j'ai un rachat en moi. C'est qui le rachat que j'ai en moi ? C'est mon Yitzhara. Donc, qu'est-ce qu'elle va dire la Neshama ? Elle va dire, je vais ressembler à Dieu, je vais punir mon Yitzhara. D'accord ? Attends, on va voir, il va expliquer. Comment je vais punir mon Yitzhara ? Il va expliquer. Bonne question. C'est magnifique comment il va expliquer ici. C'est-à-dire, ce que je vais expliquer ici, c'est que tout ce qu'on a expliqué avant, la différence qu'on a expliqué avant, c'est qu'avant, on a expliqué les midot dans les comportements généraux des hommes, sans rentrer dans les détails de la manière comment on sert à Kadosh Baruch Hu. Là, maintenant, il va t'expliquer comment, en vérité, on va appliquer tout ça dans la manière de servir Dieu. Donc, dans le chesed, c'est quoi ? Le chesed, c'est, je vais dire, comment Dieu fait du chesed ? Il donne ? Moi aussi, je vais donner. Je vais donner de la tzaka, je vais donner à Dieu, je vais faire une mitzvah. On va passer à Gvoura maintenant. Comment Dieu fait Gvoura ? Il punit les Réchaïm ? Moi, je veux punir les Réchaïm aussi, mais je ne peux pas punir des Réchaïm. Qui suis-je ? Moi, je ne suis pas le bon Dieu pour punir. Alors, j'ai un petit rachat en moi. Je vais le punir. Comment je vais le punir ? Très simple, il va expliquer. Vechen. Ben, midat à Gvoura. C'est quoi la midat de Gvoura d'Akadosh Baruch Hu ? C'est quoi la rigueur de Dieu ? Les paramina rechaïm. Comment Dieu est rigoureux ? Dieu est rigoureux là, parce qu'il se venge des rechaïm. Ou les onsham, onshah Torah. Dieu va les punir par les punitions de la Torah. Comment moi je vais le faire ? Comment moi, ma neshama, je vais ressembler à Dieu ? Vechen. Leïd gaber alitzro. Je vais me renforcer sur mon yetzarara. Je vais me battre avec mon yetzarara. Je vais punir mon yetzarara. Comment je vais le punir ? Où on va retrouver l'aspect punition ? Ou les kadesh et tatsum me mutarlo. Je vais me sanctifier. Vous avez dans les mots ? Allez, on va prendre dans les mots. Voilà. Ou les kadesh. Ici. Page, voilà. Vechen le itgaber. Vechen le itgaber alitro. Vous avez ?
92.
Page 246. Troisième ligne. Vechen. C'est bon, tu as David ? Vechen. Pareil. Ligne qui commence par... Page
92.
Ah, d'accord, oui.
Oh, je l'ai,
bon. Tu as Youssef ? En haut de la page. Tu as ? D'accord. Vechen, pareil. Donc, rappelez-vous ce qu'on a en train d'expliquer. Que ça veut dire quoi faire... Comment la Neshama essaye de travailler sur ses midot ? Elle va se dire, je vais essayer de faire ce que Dieu aurait fait. Je vais ressembler à Dieu. Mais rappelez-vous, c'est la structure commune. Donc, pour le Chesed, il dit, je vais donner. Pour la Gvoura, qu'est-ce qu'il veut dire ? Qu'est-ce qu'il fait Dieu ? Comment Dieu a fait la Gvoura ? Il punit les Réchaïm ? Je vais me punir. Comment il va se punir ? Alors, tout d'abord, je vais me punir d'abord en me renforçant sur mon Yetzarara. Les Itgaber. Vous savez ce que veut dire les Itgaber en hébreu ? Se renforcer. Dans le mot les Itgaber, on a le mot Gvoura, Gibor. Très bien. Mais il y a aussi autre chose. La Gvoura, c'est quoi ? C'est de punir les Réchaïm. Je vais punir mon Yetzarara. Comment je vais punir mon Yetzarara ? Je vais me sanctifier et je vais m'interdire des choses qui me sont permises.
Donc, il faut se maîtriser.
Par exemple, je vais au restaurant et il y a un très bon menu. Et à la fin, on propose de la glace, et je dis non à la glace. Pourquoi je vais dire non à la glace ? Parce que je dis, je vais casser mon Yetzarara.
Tu pousses un peu.
D'accord ? Ou bien, comme on avait dit il y a 3 ans dans le cours de Tania, on avait dit, s'il y a 3 boules de glace, au lieu de prendre 3 boules, je vais prendre une boule de glace.
Pourquoi c'est Yetzarara ?
D'accord ?
Ou deux ?
Parce que, justement, je vais me travailler, c'est un bonus, c'est quelque chose que c'est un bonus, j'en ai pas besoin pour ma santé. Donc, je vais montrer à mon Yetzarara, c'est pas parce que tu veux de la glace que tu en auras. Et je l'habitue. Non, ça n'a rien avec le Yetzarara. C'est j'habitue mon corps à ne. C'est pas parce que je veux quelque chose que je l'aurai.
C'est l'ascétisme.
De manière à ce que lorsqu'il me proposera une avéra, je lui dis, ben alors tu veux, tu l'auras pas.
Donc c'est une façon de se
préparer. Ça, c'est le Ramban qui dit ça, Narmanide. Exactement. Se forcer, s'habituer à résister. Donc il dit comme ça, il dit Akadosh Baruch, qu'est-ce qu'il fait? Il punit les Rechaim. Pourquoi il punit les Rechaim? La punition qu'il donne au rachat, c'est pas forcément sur ce que le rachat a fait. Par exemple, c'est un rachat qui a mangé du cochon. On va pas le punir avec un cochon. On va le punir avec autre chose. Justement pour le pousser à ne plus fauter. Donc moi aussi, mon Yetzahara, il me pousse à fauter. Je vais pas punir mon Yetzahara dans la faute. Je vais le punir dans autre chose. Pour que justement plus tard, lorsqu'il voudra me proposer sa Avera, eh ben je lui dirai non. Donc vous voyez comment c'est la même dynamique. Je vais utiliser la même dynamique à Kadosh Baruch Hu. Autre exemple. Velaasot, Geder ou Siag la Torah. Dans le premier chapitre de Pirkei Avot, on a dit qu'une personne doit s'habituer à se mettre des barrières et des limites. Que lorsqu'il sent qu'il y a quelque chose, par exemple, il y a certains endroits, que lorsqu'il fréquente certains endroits, ça part en vrille. D'accord ? Donc il faut éviter de fréquenter ces endroits. Il doit se mettre des limites. Donc Gvura.
Geder, c'est d'accord ? Une barrière. C'est
une barrière. Donc quelque part, il va se punir. Il va punir le rachat qu'il a en soi. Il va punir son Yetzahara. Il dit, écoute, toi Yetzahara, je sais que lorsque je passe par là-bas, ça finit toujours mal. D'accord ? Je sais que lorsque j'allume la télé, c'est toujours jusqu'à 3h du matin. Donc je vais me punir. Je vais me punir, on est d'accord ? Je vais me punir. Tout ça pourquoi ?
Je vais l'éteindre.
D'accord ? Non, je vais punir dès le départ, je vais mettre une barrière.
Le lendemain, tu te rattrapes.
D'accord ? Yes. Donc le fait de se punir, c'est une rigueur. Ça veut dire je vais punir le rachat que j'ai en moi. Donc je suis en train de faire exactement la même dynamique que ce que Dieu aurait fait. Rappelez-vous, comment la Neshama se travaille sur les Midot, elle se pose la question, comment Dieu se comporte? Donc moi, je vais essayer de ressembler à Dieu. Donc sur le Chesed, elle va se dire, Dieu aurait donné aux pauvres, je vais donner moi aussi aux pauvres. Dans la Gvura, qu'est-ce qu'elle va se dire? Elle va se dire, Dieu aurait puni les Rechaim, je vais punir le rachat que j'ai en moi. D'accord? C'est la même dynamique. Exactement la même dynamique. Ok? On est d'accord? Donc maintenant on va développer la troisième Mida. Donc rappelez-vous, on a Chesed, Gvura, Tiferet. Est-ce que vous êtes prêts pour le développement? Je vais reprendre ce qu'on a expliqué depuis le début. D'abord, première partie de ce cours, on a expliqué le fait qu'il y a une structure commune entre les Sphirot, entre la personne, entre la Kadosh Baruch Hu, la manière comment écrit le monde, il y a une structure commune. Ok. Après on a expliqué, plus tard, On a expliqué les différentes sphirotes. On n'a pas encore expliqué la dernière, Malchut, on n'a pas encore expliqué, mais on a expliqué chacune des sphirotes. Et le thème du cours d'aujourd'hui, on a expliqué comment finalement chacune de ces sphirotes était composée des 7 sphirotes. C'est ce qui fait la complexité. On est d'accord? Donc on a donné des exemples, la victoire dans l'humilité, l'humilité dans la victoire, la bonté dans la rigueur, la rigueur dans la bonté, etc., etc., etc. Donc c'est ce qu'on a expliqué, l'aspect superficiel et l'aspect profond. Ok, ça on a compris. Maintenant, il va expliquer encore un autre paramètre. Que la manière comment la Neshama va se travailler sur ses midotes, elle va se poser la question, comment Dieu aurait fait les choses? C'est-à-dire que lorsque la Neshama se réveille, elle dit, ok, j'ai envie de me travailler sur la bonté.
Mais comment?
Comment? Qu'est-ce que je fais? C'est qui son modèle? Son modèle, c'est Dieu. Donc son modèle va se dire, comment Dieu fait la bonté? Il donne au Am Israël, je vais moi aussi donner aux pauvres. Comment Dieu se travaille sur la rigueur? Il punit les Rechaïm, moi aussi je veux punir le rachat que j'ai en moi. Ok. Maintenant, on va parler de Tiferet. Tiferet, c'était l'harmonie. Alors, comment Dieu fait Tiferet? Et comment moi, l'année chamane, je vais faire Tiferet? Il va expliquer. Ren, pareil. Les faer et Hachem, vetorato, bechol minéper. C'est quoi Tiferet? Rappelez-vous ce qu'on a expliqué. C'est quoi Tiferet? Tiferet, c'est l'harmonie entre la bonté et la rigueur. C'est comme l'harmonie des couleurs. Vous vous rappelez ce qu'on avait expliqué? Tiferet, en hébreu, ça veut dire l'harmonie, ça veut dire aussi la beauté. On avait expliqué qu'un vêtement, qui est d'une seule couleur, n'est pas beau. Qu'est-ce qui fait la beauté d'un vêtement? C'est quand il est harmonieux, c'est quand on a marié deux couleurs. Donc Tiferet, ça représente quoi? Ça représente la beauté. Alors, comment on va retrouver Tiferet dans la Torah? La Neshama va se poser la question, va se dire, comment je peux embellir la Torah? Comment je peux embellir ma mitzvah? Comment je peux mettre un hidour à ma mitzvah? Comment je peux mettre une touche personnelle à ma mitzvah? Et ça, c'est extraordinaire ce qu'elle explique ici, parce que dans la nature des gens, dans la nature des religieux, là, maintenant, dans ce que je viens d'expliquer, on voit tout de suite trois courants. T'as un premier courant des gens qui vont se dire il faut donner aux autres. Qui vont développer le chesed de leur neshama. T'as un deuxième courant qui vont dire non, gvura, la rigueur. C'est-à-dire quoi la rigueur? Il faut punir le yetzara. Il faut punir au maximum le yetzara, mettre un maximum de barrières, de la même manière que Dieu punit le rechaïm, on doit se punir au maximum. D'accord? Et ça, c'est encore d'autres courants qui existent comme ça. Et tu as un troisième courant, alors bien sûr, on va essayer de faire tous en même temps, mais t'as un troisième courant qui va te dire t'as des gens qui vont être un peu au milieu, donc un peu ni l'un ni l'autre, mais c'est des gens qui vont essayer d'embellir toutes les mitzvot. Dès qu'il y a une mitzvah, il va réfléchir comment je peux embellir la mitzvah, comment je peux avoir un bon étrog, comment je peux... Tout de suite, il va réfléchir comment il peut embellir la mitzvah. Parce que rappelez-vous, Tiferet, ça veut dire quoi? Ça veut dire la beauté, l'harmonie, la beauté, l'harmonie, donc de l'harmonie entre les couleurs. Et donc, il explique que c'est quoi l'harmonie qu'il y a dans la neshama, c'est quoi la beauté de la neshama, c'est quand la neshama va se poser la question, comment je peux améliorer ma mitzvah, comment je peux faire que ma mitzvah sera encore plus belle et encore plus belle. D'accord? Et ça, encore une fois, c'est une nature. Une nature de la neshama. Tu as des gens, je sais, on connaît des gens comme ça. Tu as des gens qui, une mitzvah qui est faite de manière basique, ils ne supportent pas. Chaque mitzvah, même une mitzvah classique, il va dire, attends, on va la faire comme ça. On va la travailler, la mitzvah, on va la préparer. D'accord ? On va l'embellir.
Parce que ça le fait kiffer.
Exactement, parce qu'il kiffe la mitzvah. Il kiffe la mitzvah, il peut pas... Le quoi ? Non, son but, c'est pas de kiffer la mitzvah. Son but, c'est de montrer qu'il va embellir la mitzvah, qu'il va donner une plus-value à la mitzvah, qu'il va montrer qu'il va rendre belle la mitzvah. Et donc, il va essayer de se poser des questions. Comment je peux faire pour donner une valeur ajoutée à la mitzvah? Pour avoir un hitrog plus joli, pour essayer de faire une meilleure tefila, avec plus de kavana, d'accord? Pour essayer peut-être de comprendre un peu mieux ce que j'étudie. Une plus-value. Son but, c'est qu'il essaye de mettre une plus-value, une touche personnelle à tout ce qu'il fait. Donc, vous voyez, en quelques minutes ici, on vient de donner trois courants dans la religion. D'accord? C'est pas fini, on va continuer. Ou les davka bishvachav, b'chol prinot nafsho, daïnou beit bonin ou tirlo, ou marchafto vegam betiburo. Voilà, donc c'est une personne qui veut toujours être là en train de vouloir embellir les choses. Alors, c'est une personne comme ça qui veut toujours embellir les choses, c'est peut-être une personne qui voit le mal nulle part. Vous savez, des gens comme ça, dès qu'il y a un truc qui se présente à eux, toujours ils voient que le bien partout. Ils voient que la beauté. Donc c'est une personne que dès qu'il a un hidour, dès qu'il a une mitzvah qui peut embellir, il va l'embellir. Mais dès qu'il va même, il va rencontrer un rachat, il verra pas un rachat, il verra la mitzvah qu'il a en lui. Tout de suite, il est là pour... il va styler, il va rendre ça un rachat. Il va rendre ça un tzadik.
Pourquoi c'est l'équilibre entre les deux, la beauté en
fait. Parce que la force de la beauté, c'est Tiferet. C'est quoi Tiferet? C'est l'harmonie entre la bonté et la rigueur.
Oui.
Et c'est l'harmonie entre les deux qui fait justement, comme dans le vêtement, qui fait la beauté. Et celui qui est harmonieux, il est comme ça. Ça veut dire que ni les trois à droite, ni les trois à gauche, seulement il est conscient qu'il y a un problème. Mais il va essayer de l'embellir. Celui qui est complètement à droite, il voit aucun problème. Celui qui est à gauche, il voit que des problèmes. Celui qui est au milieu, il voit des problèmes et il va essayer de les embellir. Tu vois ce que je veux dire? Alors on continue. Ce serait bien peut-être à la fin de ce pérec si on pourrait travailler ensemble sur un tableau pour illustrer ça, parce que là, moi je trouve que c'est un pérec très très complet. Ce pérec. Non? Un pérec très complet qui nous permet de bien comprendre beaucoup de notions qu'on a expliquées. Merci. Alors, c'est un pérec compliqué. Je sais que quand je l'ai préparé, moi aussi j'ai buté un petit peu sur cette... pas buté, mais ça, je reste un peu plus long.
On peut le mettre en pratique.
Donc, Vechen.
Tu parlais de courant religieux.
Oui.
On est en train de tendre vers Chabad.
Attends, on va développer. Ce que je vais expliquer.
On y arrive.
D'accord. Ce que je vais expliquer, c'est que
on est sur la bonne
toutes ces sphirotes qu'on a expliquées, jusqu'à il y a quelques minutes, je suis en train de les expliquer dans la pratique de tous les jours, dans le commercial, dans la pratique de tous les jours. Là maintenant, on va bifurquer, on va essayer d'expliquer ça dans la manière de servir un Kadosh Baruch Hu. Donc on a retrouvé Chesed, celui qui a envie toujours de donner la tzedaka, de donner. Gvura, c'est au contraire celui qui est rigoureux, c'est-à-dire celui qui va être là pour casser son yetzer hara, pour se mettre des restrictions, pour punir le rachat qu'il a en lui, de la même manière que Dieu punit les rechaïm. On a au milieu Tiferet. Tiferet, c'est les gens qui sont toujours là à dire la vie est belle, la vie est rose, il n'y a pas de problème, tout est beau, d'accord ? Demain sera meilleur et aujourd'hui est super, d'accord, il n'y a pas de problème. Maintenant, on va descendre. On a Netzar. Comment on va retrouver la victoire dans votre Hachem? C'est quoi la victoire dans votre Hachem? Parce que rappelez-vous, on avait Chesed, Gvura, Tiferet, après on a Netzar. Netzar, c'est quoi? On a dit l'envie de gagner. Alors, comment on va retrouver la victoire dans votre Hachem? C'est très simple, regardez ce qu'il va expliquer. Il va dire, Vechen, je l'ai dit, commence par Vechen. La Hamad ben Nitzachon, Neged, Kol Monem, Avodat Hachem. C'est quoi Netzar? Netzar, pardon, c'est l'envie de gagner contre toute personne qui veut m'empêcher de faire Avodat Hachem. Ça veut dire, vous avez des gens, vous avez des courants religieux comme ça aussi, que, on va dire, leur leitmotiv, leur slogan, c'est on se bat contre ceux qui se battent contre la Torah. Enfin, c'est des natures comme ça. Vous avez par exemple des gens comme ça, comme Nettore Carta ou comme des trucs comme ça. D'accord, bon, Nettore Carta, n'en parlons pas, mais vous avez des gens comme ça qui disent tout ce qui va contre la Torah, il faut qu'on se batte contre eux. Il faut se battre, il faut les gagner. Et c'est un courant qui existe. C'est-à-dire que eux, ils ont dans leur manière de servir à Kadosh Baruch Hu, d'accord, ils ont développé principalement la notion de la victoire, la notion de se battre contre celui qui est contre Avodat Hashem. Alors, peut-être aujourd'hui, quand vous regardez à la télé, ils vont vous montrer les Torah et Karta, ceux qui sont partis voir Ahmadinejad, et ceux qui vont protester aujourd'hui à Matzot, etc. Mais ça, il faut savoir que c'est une minorité de les Torah et Karta. C'est des fous. En vérité, les Torah et Karta, c'est pas ça. Les Torah et Karta, je connais plein de gens, les Torah et Karta. Les Torah et Karta, c'est des gens qui disent, étant donné que le sionisme, ça a mal démarré, que c'était des gens qui n'étaient pas religieux, et qui ont fait ça contre la religion, donc on va se battre contre eux. C'est-à-dire quoi se battre contre eux? C'est-à-dire qu'ils ne prennent pas la nationalité israélienne. C'est-à-dire qu'ils prennent aussi aucune subvention. Ah oui, ils vont jusqu'au bout. Ils vont jusqu'au bout de leur démarche.
Ah oui, ils sont très minoritaires.
D'accord. Ah non, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup d'Nettore Carta. À Jérusalem, il y en a beaucoup. C'est des gens qui disent, nous, on est complètement indépendants. C'est-à-dire qu'on ne veut pas profiter de ça. Et ils te le disent, et ils éduquent comme ça leurs enfants. C'est-à-dire qu'ils éduquent leurs enfants dans un esprit de victoire. Dans un esprit de « il faut se battre contre le mal ». Et ça se défend, hein. Ça se défend. D'accord. Alors, eux, en général, ne manquent pas de respect. Ceux qui manquent de respect, c'est une minorité de chez minorité. Mais sachez qu'il y a une grande partie de religions en Israël qui ne sont pas israéliens, qui ne prennent, enfin, de, en tout cas, de, il y a les Satmar qui sont comme ça, par exemple, qui ne sont pas israéliens, qui ne prennent pas de subventions, qui ne... rien. D'accord. Bon, ils payent leurs impôts, c'est tout.
Ils vivent comment?
Eh ben, ils vivent, ils vont payer les impôts sur ceux qui travaillent, mais ils prennent pas de subventions. Ils s'arrangent pour prendre le moins possible de subventions. Ils vont jusqu'au bout de leur démarche. Pas comme certains qui vont te dire, nous on ne croit pas à la République, mais d'un autre côté ils vont te pomper les allocs et les RSA, etc. Non.
Ah bon, ça existe.
D'accord. Vous voyez? Donc une personne, ça veut dire que...
On a à peu près...
Vous voyez comment on peut retrouver des gens, et on a comme ça aussi, même dans les communautés, vous avez des gens que la composante principale de leur manière de servir à Kadosh Baruch Hu, c'est de se battre contre tous ceux qui ne suivent pas Kadosh Baruch Hu. On connaît des gens comme ça. Des gens qui sont toujours guerriers. C'est des gens qui ont développé principalement la mina de Netzach. D'accord. On le retrouve dans votre attaché.
C'est des militants, quoi.
Des militants. Des gens que... Encore une fois, bien sûr qu'on va avoir un peu de tout. Mais il y a toujours une composante principale. Chez certains, la composante principale, c'est l'amour. Chez d'autres, la composante principale, c'est justement les mortifications. Chez d'autres, la composante principale, c'est le fait d'essayer de tout rendre beau. D'accord? De tout rendre beau, d'être très optimiste. Chez d'autres, la composante principale, c'est la victoire, le fait de se battre contre tous ceux qui sont à Kadosh Baruch Hu. On va continuer, j'ai pas fini. On va passer maintenant à un cinquième courant. D'accord? On a tous un peu de tout ça, mais il y a toujours une composante principale. Et donc, qu'est-ce qu'on avait après la victoire? Après la victoire, on avait Hod. Hod, c'était quoi? C'était
l'humilité.
L'humilité. Alors, comment vous retrouvez l'humilité dans Avodat Hashem? Donc, dans les mots. Alors, j'ai pas fini la victoire. La victoire, on va la développer dans les mots. Vechen, pareil. La mode benitzachon. Je reprends la ligne qui commence par Vechen. La mode benitzachon. Donc, être en guerrier. Neged, kol monem Avodat Hashem, contre toute personne qui veut m'empêcher d'Avodat Hashem. Oumildav Kabo, toute chose qui veut m'empêcher, alors ça peut être le sionisme pour ces gens-là par exemple, mais bon, chacun va développer après dans un exemple qui nous concerne. Oumildav Kabo, tout ce qui peut m'empêcher de m'attacher à Dieu, Veneget Kolbonea, et il va s'attaquer contre toute personne qui va m'empêcher, Miliot Kvod Hashem Lokol Haaretz. Toute chose qui pense, qui empêcherait le Kavod de Dieu de se répandre sur la terre, je vais me battre contre ça. Et pour moi, c'est ça ma mission sur terre. Vous avez des gens qui sont comme ça. Kemil Hamot Hashem. Alors vous savez qui était comme ça? Il va nous surprendre. Le roi David était comme ça. La composante principale du roi David, c'était quoi? C'était un guerrier. Il tirait sur tout ce qui bouge. C'est pour ça que Dieu lui a dit, toi tu ne peux pas... Toi, tu ne peux pas construire le Beth Hamikdash. On va le construire grâce à ton mérite, mais tu ne peux pas le construire toi. Parce que David Ameler nous dit la Gemara, d'accord, on le dit clairement. C'était un conquérant, c'était un militant. Toute sa vie, c'était que des bagarres. Il s'est battu contre tout le monde. Contre tout le monde, il s'est battu. Contre sa famille, contre ses amis, contre la royauté de l'époque qui était le roi Shaoul, contre ses enfants, contre ses femmes, contre tout le monde, il s'est battu. Ah, ça se finissait bien, mais ça veut dire que c'était un militant. Quand je dis se battre, c'est pas se battre dans le sens, il casse tout. se bat dans le sens, c'est-à-dire que partout, il doit toujours défendre des intérêts. Défendre. Kemil Chamot Hashem, c'est pour ça qu'on l'appelle le guerrier. Les guerres de Dieu. Hashem Nilcham David Amelech Alav Shalom. Donc vous voyez comment même, on peut retrouver ces natures-là dans Vadat Hashem. Il y a des gens qui sont comme ça.
Mélenchon.
Maintenant, l'humilité. Comment on retrouve l'humilité dans Vadat Hashem? Donc on a dit, on a déjà fait la bonté, la rigueur, on a dit l'harmonie, donc le fait d'embellir les choses, la victoire, le fait de vouloir gagner, donc les guerres, le militant. Maintenant, on va parler de l'humilité. C'est quoi l'humilité? Vechen, les ishtachavot ou les odot l'Hashem. Vous avez des gens qui vont voir que leur composante principale, c'est quoi? C'est de remercier constamment Akadosh Baruch Hu. De dire toujours merci, de se sentir toujours petit face à Akadosh Baruch Hu. Ils vont se travailler sur ça. Ils vont demander à leurs femmes de se travailler sur ça, à leurs enfants de se travailler sur ça. Ils vont, toute leur vie va être, il faut qu'on se sente petit face à Akadosh Baruch Hu, il faut qu'on dise merci à Akadosh Baruch Hu constamment. On doit toujours être reconnaissant envers Akadosh Baruch Hu. Et que pour eux, c'est ça la composante principale de la religion. C'est comme ça qu'ils voient la religion. La religion pour eux, c'est surtout le fait d'être reconnaissant envers Dieu. La reconnaissance. Ils vont baser toute leur religion sur la reconnaissance. D'accord? Et ça, on connaît des gens comme ça aussi. Des gens qui sont toujours reconnaissants, toujours merci, merci, merci. Ils sont toujours, ils vont baser leur religion sur la reconnaissance.
C'était pas un trait de caractère d'Abraham?
Non.
Aussi?
Ah non, pas du tout.
Hormis le chesed?
Non, Abraham, c'est chesed. C'est pas du tout un caractère. Non, c'est pas du tout ça. Je crois pas qu'il. Non, il donne pas d'exemple ici. Il donne pas d'exemple. Il dit que c'est justement l'idée du modim. Nous, on le fait une fois par jour, le modim. C'est qu'on dit qu'on est reconnaissant vers un Kadosh Baruch Hu, qu'on se sent petit face à un Kadosh Baruch Hu. Mais tu as des gens que pour eux, le judaïsme, c'est quoi? C'est le fait de se sentir petit face à un Kadosh Baruch Hu. Je sais que j'ai des livres chez moi à la maison, d'accord, j'ai des livres chez moi de Rabbanim, que pratique, tu prends tout le livre de A jusqu'à Z, n'importe quel paracha, il va s'arrêter sur Hakarat HaTov, la reconnaissance du bien, la reconnaissance. Et c'est pour ça que c'est magnifique, parce que tu vois en général que tous les rabbanim et tous les tzadikim, il y a toujours une composante principale. Toujours. Et autour de cette composante principale, n'importe quel paracha que tu leur mettras, et n'importe quelle mitzvah que tu leur mettras, ils vont s'arranger pour te la présenter avec leur approche. Ça veut pas dire que c'est des manipulateurs, ça veut pas dire ça. Ça veut dire que pour eux, c'est l'approche, c'est la composante principale. D'accord? Par exemple, vous prenez la chassidoute. Prenez les maîtres de la chassidoute. Vous leur prenez n'importe quel mitzvah, même des mitzvahs qui sont rigoureuses. Ils vont essayer de t'expliquer comment, en vérité, cette rigueur, c'est pour amener de l'amour. D'accord? Etc. Maintenant, vous prenez ceux qui vont vous représenter le moussard. C'est exactement le contraire. Et dans n'importe quel parachat, même dans un endroit dans lequel il y a de la bonté, ils disent oui, mais en vérité, la bonté, c'est pour amener la rigueur. Et encore une fois, c'est pas vraiment des contradictions, c'est des approches complètement différentes. C'est ça ce qui fait la beauté du Ham Israël.
Le moussard, c'est plus la rigueur, le moussard.
Bien sûr. Ouais. Bien sûr, le moussard, c'est la rigueur à
100%. C'est la morale, quoi.
C'est la morale. C'est celui qui va dire, même quand je suis gentil avec toi, c'est pour préparer la morale qui repart derrière. C'est celui qui va dire, même quand tu donnes un bonbon à ton fils, c'est pour préparer le fait que quand après tu vas lui faire une reproche, il va t'écouter. Tu comprends? Alors que la chassidoute, c'est le contraire. Il va dire non. Il va dire, c'est le contraire. D'abord, quand je lui donne le bonbon, c'est parce que je l'aime. Et même quand je lui fais un reproche, c'est parce que je l'aime. Les deux sont vrais. Et ça dépend où tu mets le focal, où tu mets ton focus. D'accord? Extraordinaire. Et c'est ça ce qui fait la beauté du Ham Israël. La beauté du Ham Israël est le fait qu'on peut avoir deux chitotes complètement contradictoires. D'accord? Et que c'est complémentaire. Je vais vous donner un exemple. La semaine dernière, on a fait un cours, jeudi matin. On a fait un cours jeudi matin dans lequel on a expliqué un grand classique du Rabbi. Dans lequel on avait expliqué que tu aimeras ton prochain comme toi-même, c'est un grand principe de la Torah. On avait expliqué que le Rabbi expliquait dessus qu'en vérité, dans la Torah, il y a deux choses. Il y a l'amour d'Israël, Ahavat Israël, et il y a l'amour de Dieu. Et l'amour de la Torah, pardon. Et on avait expliqué que aimer un juif, c'est encore plus important que aimer la Torah. Pourquoi? Comment on avait illustré ça? On avait illustré ça en disant que, par exemple, quand tu vas aimer un juif qui n'est pas religieux, tu es en train de prouver que même s'il n'est pas religieux, je l'aime quand même. Donc, Israël est au-dessus de la Torah. C'est ce que le rabbi avait expliqué. Donc, même si tu dois peut-être lui faire des réprimandes, etc., mais concrètement, la composante principale, c'est l'amour. Le lendemain matin, vendredi matin, il y a deux personnes qui sont venues me voir, donc ce vendredi, là, et qui m'ont dit, hier soir, on était à un cours, on a appris exactement le contraire. Qu'il y avait un rave qui leur avait dit, peu importe le rave, il y avait un rave qui leur avait dit exactement le contraire. Il leur avait dit que, ça veut dire quoi Zekal Gadol Batorah? Ça veut dire quoi aimer son prochain? La seule raison pour laquelle tu aimes ton prochain, c'est pour l'amener à la Torah. Et si c'est pas pour ça, ça s'appelle pas de l'amour. Ouais. D'accord ? Ça veut dire que le but de l'amour, c'est pour, justement, pour, pas pour taper dessus, mais pour arriver à la rigueur. D'accord ? Je veux pas rentrer dans les détails, parce que bon, peu importe, c'est pas le but du cours d'aujourd'hui. Ce que je vais expliquer, c'est, bon, quand j'ai entendu ça, j'ai rigolé, parce que on a un exemple, vous prenez le même Rashi, le même texte, et chacun, selon sa manière de voir les choses, va comprendre. Et les deux ont bien compris. Ça dépend de la nature de chacun. D'accord ? Donc on a déjà eu ici combien d'approches ? On a déjà eu ici, donc on a dit la bonté, la rigueur, ceux qui vont toujours embellir les choses, Netzar, on a dit comment on a traduit Netzar ? C'est les militants, d'accord ? Hod, c'est ceux qui vont toujours travailler sur l'humilité, le fait, la karatatov, la reconnaissance du bien. Il nous manque encore un maintenant, les communicants.
Yesod.
Donc, Ubichlalze, Leodot, Alkoch, Vacha, Udetab, Pouletab, Atsilut, Vriot, Elenim, Tartanu, Shemeshubachim, Anatachil, Venaimurim, Elavid, Barer, Veit, Alev, Ou, Milachon, Hod, Veadar. D'accord. Donc, Hod, c'est l'humilité, c'est le fait de se rappeler constamment qu'on doit remercier la Katash Baruch Hu. Vechen. Pareil. Maintenant, on va passer à Yesod, la communication. Comment on retrouve la communication dans la Torah ? C'est quoi la communication ?
Prière.
D'accord ? Mais c'est quoi Yesod ? C'est la communication. Comment on avait expliqué dans la pratique ? Allez, mais on se réveille. Dans l'exemple que j'avais donné avec le commercial, qu'est-ce qu'il fait ? Je me mets à la place de l'autre. C'est-à-dire que je m'attache tellement avec l'autre que je me mets dans la tête de l'autre. Donc c'est synonyme d'un attachement, d'une liaison extraordinaire. Spirituellement, c'est la même chose. T'as des gens qui vont te dire, le plus important dans le judaïsme, c'est de s'attacher à Dieu. Et donc ils vont tout faire pour s'attacher à Dieu dans chaque mitzvah.
Ou c'est un but en soi.
Alors ça, il va expliquer que ça, c'est le travail des tzadikim. Qu'un tzadik, dans chaque mitzvah, il ne se pose pas la question... Quel intérêt je vais obtenir dans cette mitzvah ? Il se pose la question, comment, grâce à cette mitzvah, je vais rentrer, entre guillemets, dans la tête de Dieu, comme l'empathie. Je vais faire un seul corps avec Akadosh Baruch Hu. Et là, tu as des gens qui sont comme ça. Que toutes les mitzvot, pour eux, pourquoi je fais une mitzvah, c'est pour faire un seul corps avec Dieu. Vous voyez comment ces six approches-là, on va les retrouver chez six catégories de personnes, et c'est des choses qu'on retrouve, ça c'est des choses qu'on voit dans la vie de tous les jours. Vous prenez une synagogue, on va retrouver ces six traits de caractère. C'est sûr. On les retrouve, ces six manières de voir les choses.
C'est la dynamique de groupe.
D'accord ? Alors, dans les mots. Ça va, c'est pas trop compliqué ? Je vous sens fatigué ce soir.
Non, on est concentré.
Hein ? Ça va, David ? Fatigué ?
Enfin, David, il a pas chargé assez. Hein ? Il a pas chargé.
Vous voulez qu'on s'arrête là pour aujourd'hui, on reprend la semaine prochaine ?
Ça va très bien.
C'est bon ?
Non, non.
Je vous sens fatigué.
Hein ?
Bon. C'est compliqué ou ça va ? Oui. Allez, dites-moi honnêtement, je veux pas.
Non, c'est très bien.
Je veux pas être seul la semaine prochaine.
Non, on va pas te laisser tout ça.
Allez, Mekhaïd. Ah, tu sais, c'était pas très clair, on s'est dit que. On va te laisser apprendre avec les Sadikim.
On révise. Bon, la semaine prochaine, c'est mon anniversaire.
Ah, ça se fait.
Ah.
C'est l'anniversaire civil. Hein.
Pas grave. Bonne occasion pour rien.
Bonne excuse pour pas être là.
Ah.
Là, je suis en train de négocier déjà. Et
on va le faire non. Dimanche. Tu vas dire à ta femme, on le fera à l'anniversaire juif.
Ouais, ça on va le faire déjà. Le 21 mai.
Pour une fois. Ok.
Dans la journée.
Donc, bon, on va finir avec ça. וכן במידת צדיק יסוד עולם, להיות נפשו קשורה בהשם חיי החיים ולדווקא בו, בדבקה וחשקה בחשק ותענוג נפלא. Voilà, donc on a le sixième courant. C'est quoi le sixième courant ? C'est ceux qui vont te chercher partout. Comment on peut avoir l'émouna en Dieu ? Comment on peut s'attacher à Dieu ? Bon. Maintenant, il y a une mida que j'ai pas encore parlé. La dernière.
Malchut.
D'accord ? Malchut.
Tu vas pas nous le garder pour la semaine prochaine.
Eh non, maintenant, je vais vous en parler maintenant. D'accord ? C'est quoi Malchut, la royauté ?
Vous le saurez.
On avait la bonté, la rigueur. Donc, vous vous rappelez ce que j'ai expliqué, c'est qu'on avait toujours le côté droit, le côté gauche et le côté du milieu. Donc, on avait la bonté, la rigueur, l'harmonie. Ensuite, on avait l'envie de gagner, donc la militance, ça se dit ?
Militantisme.
Militantisme, d'accord. On avait de l'autre côté l'humilité. Et au milieu, qu'est-ce qu'on avait ? La communication, l'empathie. Maintenant, toujours dans la même lignée du milieu, on va avoir Malchut. C'est quoi Malchut ? Malchut, c'est la royauté. C'est l'envie de régner. Alors, comment on va retrouver l'envie de régner ? Très simple, comme on avait expliqué ici. Spirituellement, comment on va retrouver l'envie de régner ? C'est qui le roi du monde ? C'est Akadosh Baruch Hu. Alors, tu as des gens que chaque chose, la manière comment ils vont se travailler dans leur judaïsme, ils vont se dire, il faut qu'on accepte sur soi le joug de Dieu, et on doit se sentir comme un esclave devant son maître. Et c'est des gens que tout leur judaïsme, ils vont se travailler sur ce sentiment de se sentir comme un esclave, ka'avda, kamemare, comme un esclave devant son maître. C'est un peu comme de l'humilité, mais c'est encore plus fort. C'est avoir le sentiment, on dit comme ça, on explique en chassidout doute que la différence entre l'humilité et la royauté, c'est que dans l'humilité, je vais me sentir peut-être petit par rapport à quelqu'un. Par exemple, j'ai estimé qu'il y a un tzaddik qui est très grand, et que par rapport à ce tzaddik, je me sens petit. Mais bon, je suis ce que je suis quand même. D'accord ? Mais dans la royauté, on dit que la royauté, ça veut dire c'est comme un roi par rapport à des sujets, par rapport à des esclaves. On dit un esclave n'a pas de volonté propre. Un esclave, sa volonté, c'est la volonté du roi. Et ça aussi, c'est une autre approche. Vous avez des gens que leur approche, leur manière de servir un kadosh baroukh hou, c'est quoi ? C'est on va se travailler sur le joug divin. Sur le joug divin. Alors ça, c'est une forme de religion qui est peut-être... C'est des gens qui sont peut-être pas spécialement heureux. Vous savez, des fois, on voit des gens religieux comme ça. Vous avez l'impression qu'ils ont l'angoisse, ils ont la ramma comme ça. Vous avez déjà vu des gens comme ça ? Ils ont l'angoisse, ils ont un judaïsme angoissant. Ils sont pas bien. D'accord ? Donc on se dit, mais c'est pas possible, ils sont à côté de la plaque. Non, ils sont pas forcément à côté de la plaque. Ils servent à Kadosh Baruch Hu de manière malchoute. C'est quoi malchoute ? C'est la royauté. De se sentir comme un esclave. Vous avez déjà vu un esclave heureux ? On sait pas ce que c'est. Un esclave n'est jamais heureux. Un esclave, ne peut, par définition, il peut pas être heureux. Ça n'existe pas le fait d'être heureux parce que il a pas de volonté propre. Il fait ce que le roi demande.
Il s'annule.
Il s'annule complètement. Il n'a pas de volonté propre. Il s'annule. Et donc, c'est pour ça qu'un esclave n'a pas vraiment de plaisir. Il n'a pas de plaisir. À la limite, le seul plaisir qu'il aura, c'est le plaisir du roi. Donc, vous avez des gens que leur manière de servir à Kadosh Baruch Hu, c'est par l'esclavage. Ils vont se sentir esclaves face à Kadosh Baruch Hu. D'accord ? Et donc, chacun, il va se situer par rapport à tout ça. Chacun, il va se situer par rapport à sa manière de voir les choses, par rapport à tout ça. D'accord ? Si je pose la question à David, par exemple, de tout ce qu'on a expliqué, de toutes les sept manières qu'on a expliqué de servir à Kadosh Baruch Hu, laquelle t'accroche le plus ?
Netzar.
Netzar. L'envie de se battre contre les Tzara, se battre contre tous ceux qui...
Ah si. Pour moi, Netzar, c'est...
Oui, mais spirituellement, dans la Neshama.
Par rapport à... Pour ressembler le plus à Dieu, c'est ça, tu veux savoir ?
Oui.
Ça, j'ai pas bien, il faut que je révise, ça, je veux dire. Par rapport au...
Alors, et vous, laquelle vous choisissez ?
Non, je sais pas, c'est pas...
On repasse une couche encore ?
Non, j'ai commencé à comprendre, mais...
On est vite passé dessus, donc il faut que je revoie point par point.
Il y a du bien partout, quoi. Il y a du bien dans tous les...
Non, justement, là, ce qu'on a expliqué ici, c'est que dans tout, il y a du bien.
Oui. La sphira qui...
Seulement les sept sphirotes, on a développé sept techniques de s'attacher à Dieu. Alors, on va repasser, je veux qu'on comprenne ça. Parce que je repasserai pas dessus la semaine prochaine.
Allez.
Regardez. Ce qu'on a développé, dans le cours d'aujourd'hui, je voulais m'arrêter sur deux points. Et j'espère que les deux points seront clairs. Le premier point, c'est que je voulais expliquer l'aspect superficiel et l'aspect profond. Ça, je pense que ça a bien été compris. Ce qu'on a expliqué avec les hommes des Sphirotes, que des fois, il y a un message que je vais donner, mais en fait, le message que j'ai au fond, il est différent. Ça, on a bien compris. Ça, c'est le premier message que je voulais expliquer. Le deuxième message, deuxième point que je voulais expliquer aujourd'hui, ce qu'on a expliqué dans les mots ici, c'est que quand on va servir à Kadosh Baruch Hu, on va retrouver ces sept techniques de servir à Kadosh Baruch Hu.
C'est ça la question ?
Oui. Sept techniques.
Quelle technique je préfère ?
Sept techniques. Donc on va les reprendre une par une. Allez, on va les reprendre. Et je vais vous poser la question. La première technique, c'est quoi ? Chesed. C'est quoi Chesed ? Spirituellement, c'est quoi ?
La bonté.
Donc, comment je sers à Kadosh Baruch Hu ? Ça veut dire quoi servir à Kadosh Baruch Hu principalement par la bonté ?
C'est... Je sais pas,
donner de son temps.
D'un point de vue concret, c'est par exemple donner la tzedaka ou
autre. D'accord. Ça veut dire que pour une personne comme ça, la composante principale.
Ouais, ça veut dire que tu n'arrêtes.
Ouais. Ça veut dire que pour lui, la composante principale du judaïsme, c'est quoi ?
C'est
la bonté, la charité, le fait de donner aux autres. D'accord ? C'est ce que Rabbi Akiva a dit. Zekla Gadol Batorah, l'ancien a dit, toute la Torah est dedans. Donc là, on peut dire que c'est une personne que pour lui, la composante principale du judaïsme, c'est quoi ? C'est chesed, c'est l'amour. D'accord ?
Mais c'est la définition, c'est pas de donner la tzedaka.
Non. Si, tout est dedans. C'est un exemple.
Oui, je comprends que c'est un exemple.
Ça veut dire que la première approche, elle te dit, la composante principale du judaïsme, c'est l'amour. Et même dans les mises que l'homme fait envers Dieu, c'est l'amour qu'on a envers Dieu. L'amour, c'est la composante principale. D'accord ? Ensuite, on a un deuxième groupe. Qui eux vont te dire, qu'est-ce qu'ils vont te dire ?
La rigueur.
Alors vas-y, donne-nous un exemple. C'est quoi la rigueur ? La rigueur, c'est normalement comment Kadosh Baruch Hu, il est rigoureux ? Il punit les Rechaïm.
Donc comment ces gens-là vont servir à Kadosh Baruch Hu? Pour eux, la composante principale du judaïsme, c'est quoi?
Se priver.
Se priver. Il faut se priver au maximum. Le but du judaïsme, c'est justement se priver, d'accord?
Ça va pas tarder.
Donc c'est de se priver et de se séparer au maximum de la matérialité. Et on connaît des gens comme ça. Que pour eux, c'est ça la composante principale du judaïsme. Toutes les mitzvot, c'est pour ça, pour se priver du matériel. Tout est autour de ça. Ok. Ensuite, Youssef, on avait une troisième approche, c'était l'approche de l'harmonie, le fait de rendre beau les choses. Est-ce que tu peux nous expliquer comment on explique ça dans Avodat Hashem? Il y a des gens qui, c'est leur manière de servir Dieu.
On l'explique par le Hidur Mitzvah.
Très bien. Donc, ça veut dire que c'est des gens que pour eux, le but de Avodat Hashem, c'est quoi? C'est d'embellir la vie, d'embellir les choses, de rendre bien les choses, de chercher le bel aspect qu'il y a dans tout. Donc, ils vont embellir les mitzvot. Dès qu'ils voient quelque chose de pas bien, ils vont essayer de trouver le côté positif. D'accord? Jamais trouver l'aspect négatif. Toujours chercher l'aspect positif.
Comme il y a quelqu'un qui a dit il n'y a pas longtemps, quoi qu'il arrive, vous êtes content.
Qui c'est qui a dit ça?
Encore une élection.
Hein?
Dans le débat.
D'accord.
Dans le débat, il a dit quoi qu'il arrive, vous êtes content. Vous êtes toujours content.
Ça, c'est différent. D'accord? Ça, c'est une troisième manière de servir à Kadosh Baruch Hu. Ensuite, on passe à la quatrième. Celle-là, je la dédie à David. Alors, d'accord, Netzar. Comment on peut servir à Kadosh Baruch Hu par Netzar? Non, Netzar, côté droit.
La victoire.
Comment on sert à Kadosh Baruch Hu par la victoire?
Vaincre son Yetzara.
Voilà, vaincre son Yetzara. Vaincre son Yetzara et pas que son Yetzara. Pas que son Yetzara. Vaincre également tous ceux... Pour ces gens-là, la composante principale du judaïsme, c'est quoi? C'est vaincre son Yetzara, se travailler sur son Yetzara, vaincre tous les opposants du droit chemin, les opposants du bien, donc vaincre tous ceux qui s'opposent à la Torah, vaincre, militer. D'accord? C'est des militants.
Vaincre son Yetzara, c'est la rigueur, non?
Non. La rigueur, c'est pas vaincre son Yetzara. La rigueur, c'est mettre des restrictions autour du Yetzara pour le calmer au maximum. Parce que la rigueur, on a dit justement, c'est la restriction. Netzar, c'est pas la restriction. Netzar, c'est je vais me battre contre lui. Je vais lui casser la figure. Gvora, c'est pas ça. Gvora, c'est je vais le bloquer au maximum.
J'arrive à 40 ans, il est mal, Netzar.
D'accord? Alors Netzar, c'est pas ça. Netzar, c'est je vais me battre avec lui. Et pas qu'avec lui. Je vais me battre avec tout celui qui est contre Dieu.
Toutes les forces de l'homme, ils arrivent à 40 ans.
Dès que t'as une personne qui va venir ici et que je sens qu'il n'est pas religieux, je vais le. En plein dedans, je lui rentre. D'accord? Et t'as des gens que pour eux, le judaïsme, c'est ça. Le judaïsme, c'est se battre contre le mal, se battre contre tout ce qui n'est pas pour un Kadosh Baruch Hu. Ok. Ensuite, on passe à gauche, et tu as l'humilité. Alors l'humilité, c'est quoi l'humilité? Comment on peut retrouver l'humilité d'un Avodat Hashem?
Se sentir petit.
Donc tu as des gens que pour eux, le but du judaïsme, c'est quoi?
Ça te va bien, toi.
D'accord. C'est quoi le but du judaïsme? Le but du judaïsme... C'est bien sorti, hein? Alors,
et ça marche. T'arrives à te sentir petit.
Alors, c'est quoi le but du judaïsme? Le but du judaïsme, donc d'après cette sixième approche, c'est que toutes les mitzvot, le rôle d'une mitzvah, c'est que l'homme va se sentir petit face à Kadosh Baruch Hu. Donc, il va te dire pourquoi une personne va mettre les tefillin. Quand il va mettre les tefillin, il va se rappeler qu'il va se soumettre à Kadosh Baruch Hu. Pourquoi il va mettre une mezouza à la porte de sa maison? D'accord? Pour qu'il se rappelle que c'est Dieu qui protège sa maison. Pourquoi il va faire le Shabbat? Pour qu'il se rappelle que c'est Dieu qui gère sa semaine. Etc, etc, etc. C'est-à-dire qu'on va chercher l'aspect humilité, l'aspect remerciement à Kadosh Baruch Hu dans chaque chose. D'accord? L'aspect, le fait de se sentir petit. Et enfin, le dernier, c'est pour moi. Alors, le dernier, c'est, on a dit, c'est quoi le dernier? Yesod. Non, Yesod. Ah oui, on n'a pas fait Yesod. On recommence le tour. Alors, c'est quoi Yesod? Yesod, c'est la communication. C'est quoi la communication? La communication, on avait expliqué, c'est l'empathie. C'est le fait de dire que les deux cerveaux vont se lier. Que je rentre dans le cerveau de l'autre personne. Donc, spirituellement, ça veut dire quoi? C'est des gens qui vont te dire, pour nous, le but principal des mitzvot, du judaïsme, c'est quoi? C'est de se lier avec Dieu. Mais ça, c'est déjà un niveau...
C'est pas s'identifier.
Pas s'identifier, se lier, former un seul corps avec Dieu. Mais ça, c'est des niveaux pour les tzadikim. Il a dit tzadik et sodolam. Ça, c'est tzadik. Pour un tzadik, tu comprends, quand il va faire une mitzvah, il va pas te dire, c'est pour donner, c'est pour être rigoureux, c'est pour gagner, c'est pour... Non, rien de tout ça. Ça veut dire, pour moi, le but des mitzvot, la composante principale du judaïsme, c'est que ça nous permet de nous lier avec Dieu. Ça, c'est la composante principale.
C'est d'accord. L'adhésion.
L'adhésion.
Ouais, c'est tombé sur d'accord. Ça, c'est pas l'adhésion.
Bon. Ça, c'est... Amen. Alvaï. Alors, ça, c'est... Et enfin, on a Malchut. C'est quoi Malchut? D'accord. On a expliqué c'est quoi Malchut. Malchut, c'est encore plus fort. Malchut, c'est s'annihiler. Il n'a pas de volonté propre. Ça, c'est un immoral, c'est dit Kim aussi. Qu'il est tellement annulé à Kadosh Baruch Hu qu'il devient comme un esclave devant son maître.
Les anges.
Ça, c'est extraordinaire. Donc, on a eu ici sept approches. Donc, c'est quoi la septième approche ? C'est qu'il va y avoir des gens qui vont te dire, pour servir à Kadosh Baruch Hu, il faut s'écraser au maximum. Et toutes les méthodes, c'est s'écraser, tu te tais. D'accord ? Un petit peu comme nos arrière-grands-parents nous ont éduqués, qu'il faut tu te tais. Et c'est tout, et c'est comme ça. Et bien, c'est Malchut, ça. Finalement, on explique en Chassidut que Malchut, c'est le niveau le plus fort. Seulement, le problème, c'est qu'il faut réussir à tenir là-bas.
Comment c'est possible ?
C'est le plus fort. Parce que le Malchut.
Moi, j'en ai ma grand-mère.
D'accord ? Eh bien, oui, le Malchut, c'est tellement fort que j'ai pas de volonté propre. C'est comme ça, on le fait, et c'est tout, point à la ligne. On se tait. C'est le niveau le plus fort. Parce que c'est une personne qui est tellement forte qu'il n'a pas de volonté propre. Sa volonté, c'est la volonté du roi. Mais c'est très difficile d'être comme ça. C'est extrêmement difficile d'être comme ça.
Mais c'est, on n'est pas renfermé quand on est comme ça c'est
pas du tout. Pas du tout.
Voilà. Non, mais tu ne le vis pas comme étant un trait de caractère.
J'ai l'impression qu'on a...
Vis-à-vis des autres.
Non, c'est que pour moi, j'ai pas de volonté propre. Ma volonté, c'est la volonté de Dieu. C'est comme ça, et point à la ligne. Il n'y a pas à comprendre. C'est comme ça. D'accord ? Ça, c'est encore une septième approche.
Est-ce que le schéma que tu en faisais, à savoir 1, 2, 3 et 4, a une signification ?
Bien sûr. C'est clair. C'est à quoi est-ce qu'il y a une signification ?
Non, j'entends que... Le schéma représente quelque chose ?
Un arbre.
Ben oui, le schéma, il y a le côté droit, le côté gauche et le milieu. Le milieu, c'est toujours le centre. C'est toujours l'entonnoir des deux premiers.
D'accord, donc ça a été.
Ah oui,
pour bien comprendre, ça a été schématiquement.
Voilà, c'était schématiquement comme ça, oui. D'accord. C'est ça, l'arbre des séphirotes. D'accord ? Bon, on va s'arrêter là pour aujourd'hui.
C'est du boulot.
Ouais. Ok.
Très intéressant. Ouais.
Voilà. Donc, on a expliqué, ce qu'on a pu expliquer aujourd'hui, c'est comment retrouver ces sept approches-là dans la manière de servir à Kadosh Baruch Hu. C'est-à-dire que. Je pense que le chidouche du deuxième point, le premier point qu'on a expliqué aujourd'hui, c'est l'aspect, on a dit, superficiel et l'aspect profond dans chaque mida. Ça, on l'a bien compris. Et je pense que le chidouche qu'on a dans le deuxième aspect de ces jours d'aujourd'hui, c'est que contrairement à ce qu'on aurait pu penser, qu'il y a des aspects positifs et des aspects négatifs, ce qu'il explique ici, c'est que même dans les aspects négatifs, tu peux avoir une manière de servir à Kadosh Baruch Hu comme ça. Donc il y a toujours quelque chose, il y a toujours une manière de servir à Kadosh Baruch Hu comme ça, et il y a des gens d'ailleurs qui le font. D'accord ? Voilà, on s'arrête là pour aujourd'hui. Continue la semaine prochaine.
Bravo. On a l'impression quand même qu'il décrit un aspect naturel des choses. C'est-à-dire après, on doit se retrouver, nous.
Bien sûr, non, bien sûr.
Parce que bon, on va se travailler peut-être sur nos midotes, mais finalement, après, nous...
Il y a toujours...
Ah ben, donc, on va ressembler à l'un des quatre.
Exactement. Notre nature, c'est toujours la composante principale. Il y a toujours une composante principale.
La tendance.
Donc, il essaie d'expliquer notre nature.
Non, il te dit pas qui tu es. Il t'explique... Il t'explique comment il y a sept natures différentes, sept manières de voir les choses. Et que selon la personne, chacun a une composante principale.
Donc quelque part, j'ai l'impression.
Tu comprends pour moi si tu poses la question à moi, de la manière comment j'ai été éduqué, Chabad. D'accord ? Parce que Chabad, c'est quoi Chabad ? Chabad, justement, c'est Chorma, Bina, Dazer, c'est toujours l'harmonie. Mais chez Chabad, la composante principale de Chabad, c'est de chercher à tout positiver. Donc ça rend en Tiferet. Le fait d'essayer de tout rendre beau, de tout positiver, même ce qui a priori est négatif. Donc pour moi, c'est la composante principale, et je vais essayer de tout faire. C'est-à-dire que quand, par exemple, le rabbi, il étudie la paracha Metsora, la paracha du lépreux, qui a priori un événement extrêmement négatif, on va essayer de te positiver tout ça. Il n'y a pas une chose dans la Torah qu'on ne peut pas positiver. Parce que c'est l'approche du rabbi. Pour le rabbi, la composante principale, c'est Tiferet. Tout passe au travers de Tiferet. Il y a d'autres qui ne voient pas comme ça, c'est pas grave. Chacun avec son approche.
On voit cette tendance.
On la voit tout de suite, c'est sûr.
Le bon côté de la chose.
L'aspect positif.
Donc pourquoi
Chorba Vinadat, c'est pas dans les. Normalement, c'est compté dans les Sphirotes. On parle de sept Sphirotes.
Non, parce que Chorba Vinadat, c'est une bonne question. Là, on parle des Midot en vérité. C'est les traits de caractère. Alors que Chorba Vinadat, c'est pas dans les traits de caractère, c'est dans l'intellect. C'est intellectuel, c'est pas sentimental.
Là, c'est pas le sujet du cours.
Non, c'est pas le sujet. Là on parle pas sur l'intellectuel, on parle sur le sentiment. D'accord ? Bon, je pense que c'est déjà l'heure.
On a déjà dû avoir ce sujet.
C'est déjà l'heure, on s'arrête là pour aujourd'hui. Razak à tous. D'accord ? Et la semaine prochaine, on essaiera de faire
un bon cours. Mais le problème, c'est que la semaine prochaine.
C'est mon anniversaire.
D'accord.
Je suis en train de négocier, mais. La vérité. Ça fait le coup, la veine. Il y a déjà 15 jours, mon anniversaire. Tu ne vas pas me faire le coup pour 15 jours, c'est pas possible.
Alors, qui c'est qui prend les sushis la semaine prochaine ?